Europe 1, il est 6h.
Il peut y avoir éventuellement plusieurs vagues aussi. On va avoir des gens qui vont s'infecter. Les infectés vont guérir. En guérissant, ils vont devenir immunisés.
Mais combien de temps ce virus va-t-il encore durer ? Difficile de répondre à cette question. En tout cas, pas la peine de s'attendre à une extinction au printemps ou à l'été. On fait le point dans un instant.
Les SAMU sont débordés d'appels. À Lille, ce sont des étudiants en médecine qui viennent renforcer les équipes.
Vous présentez des symptômes et de la fièvre. Donc bon, c'est un tableau qui peut peut-être donc suspecter le cas du coronavirus. Je vais entrer en contact avec un médecin et je vous reprends juste après pour vous dire ce qu'on va faire, d'accord ?
Le Super Tuesday, 14 États votés pour les primaires démocrates. Les résultats sont en train de tomber. Joe Biden semble le grand gagnant de la soirée. Nous appellerons le spécialiste des États-Unis, Jean-Éric Brana.
Nous irons également à la frontière gréco-turque où des dizaines de milliers de migrants espèrent passer. Mais la Grèce a suspendu toute demande d'asile pendant un mois.
La demande d'asile est un droit humain fondamental et le principe de non-refoulement l'est tout autant dans le droit international.
Et puis Kylian Mbappé rêvait des JO, c'est non, le PSG refuse de le libérer l'été prochain au Japon.
Europe 1, 6h01, très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, Hélène Zélani.
4 décès, plus de 200 cas. Chaque jour, le bilan du coronavirus s'aggrave un peu plus. Le gouvernement a décidé de réquisitionner le stock de masques, décret qui vient de paraître au journal officiel.
Alors, vous vous posez sans doute beaucoup de questions sur la durée de cette épidémie de coronavirus, par exemple, sur son évolution. On va tenter d'y répondre avec Ève Roger.
D'abord, Ève, est-ce que l'arrivée du printemps ou même de l'été peut arrêter l'épidémie ?
Et la réponse ? Et non, quand un virus respiratoire émerge à partir d'un réservoir animal comme le Covid-19 et qu'il circule pour la première fois, peu importe la saison. En 2009, par exemple, le pic de l'épidémie de la grippe H1N1 en Angleterre avait eu lieu au mois de juillet. Deuxième question, combien de temps peut durer cette épidémie, ou en tout cas ce premier épisode ? La réponse de Bruno Lina, directeur du Centre national de référence de la grippe à Lyon.
Les tailles moyennes des épidémies sont effectivement de 2 à 3 mois. Il peut y avoir éventuellement plusieurs vagues aussi. On va avoir des gens qui vont s'infecter. Les infectés vont guérir. En guérissant, ils vont devenir immunisés. Et à un moment donné, cette immunité va freiner la diffusion du virus. Et si on couple ça avec des mesures d'hygiène et des mesures barrières, eh bien l'épidémie s'arrête.
Dernière question, combien de personnes pourraient être infectées ? Il faut regarder dans le passé. En 2009, 15% de la population a été touchée par la grippe H1N1. 30% à l'occasion d'autres épidémies du même genre. Et selon le spécialiste, la vérité pourrait donc se situer au milieu.
Merci Ève Roger. Une cinquantaine de personnels soignants de l'hôpital Tenon à Paris étaient en quarantaine à cause du virus. Eh bien, ils vont reprendre le travail. Tous avaient été en contact avec un malade, mais les hôpitaux de Paris ont décidé d'éviter que le problème de l'éviction professionnelle systématique s'était terminé.
Dans la population... Et la population, c'est nous, c'est vous, évidemment, et vous le ressentez, l'inquiétude monte. Et tout le monde appelle le SAMU aux moindres symptômes, notamment dans l'Oise, le principal foyer de l'épidémie.
Alors pour soulager le SAMU de Beauvais, ceux de Lille et d'Amiens récupèrent les appels depuis hier. Lille, qui est également très sollicitée. La solution qui a été trouvée, c'est demander l'aide d'étudiants en médecine et d'internes. Écoutez le reportage de Lionel Gougelot.
Le SAMU, bonjour.
Choukri a été l'un des premiers à se porter volontaire pour renforcer le centre de régulation du SAMU du Nord.
Alors dites-moi, vous avez de la fièvre, vous faites combien de fièvre ?
Micro-casque sur les oreilles, l'étudiant en deuxième année de médecine déroule un questionnaire précis avec des critères qui permettent de distinguer un cas potentiel de coronavirus.
Vous présentez des symptômes et de la fièvre, donc bon, c'est un tableau qui peut peut-être donc suspecter le cas du coronavirus. Ce que je vais faire, c'est juste, je vais entrer en contact avec un médecin et je vous reprends juste après pour vous dire ce qu'on va faire, d'accord ?
Près de 3 fois plus d'appels au standard depuis le week-end dernier, dont la moitié de gens qui s'inquiètent pour rien ou qui prennent le 15 pour un centre de renseignement.
Je comprends totalement, hein. Je veux dire, les gens ils savent pas forcément, puis ils regardent forcément la télé, ce qu'ils racontent. Bon, parfois ça induit une peur chez les gens, donc voilà, notre but c'est surtout de les rassurer. Et si on suspecte un cas, on le transfère à un médecin.
Une 60aine d'étudiants sont déjà sur le pied de guerre au SAMU que dirige le docteur Goldstein.
Alors là j'ai été étonné, hein. Ils faisaient quasi la queue à l'entrée du service. Ils ont été formés 24h/24 par notre encadrement, y compris pendant cette nuit. Et aujourd'hui on a largement ce qu'il nous faut pour pouvoir répondre.
Et le dispositif devrait monter en puissance pour traiter les appels venant de toute la région Hauts-de-France. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et on va rappeler que si vous souffrez d'une infection respiratoire aiguë, si vous semblez reconnaître des symptômes de ce coronavirus, vous appelez le 15 si vous venez d'une zone à risque et que vous reconnaissez ces symptômes.
Un conseil de défense se tiendra à l'Élysée ce matin avant le Conseil des ministres pour évoquer justement cette question du coronavirus. Au sommet de l'État, comme partout ailleurs, on suit les consignes et on évite les contacts rapprochés. Il faut bien changer les habitudes, Jean-Rémy Baudeau.
Bonjour à toutes et tous. Je vous serre la main de cœur.
Emmanuel Macron arrivant hier à la cellule de crise du ministère de la Santé, confié quelques instants plus tôt « Je ne serre plus la main, ça fait bizarre ». Dans les couloirs de l'Élysée, le coronavirus a imposé des changements. On est plus prudent. Autour du président, un protocole de vigilance a été mis en place, explique son entourage, lavage de mains obligatoire. Il peut arriver qu'un ministre ou qu'un parlementaire tombe malade. Tout doit être anticipé, confie un proche d'Emmanuel Macron. Des réunions ont permis de remettre à jour les protocoles. Des personnes indispensables aux institutions ont été identifiées. Chaque ministère dispose d'un plan de continuité d'activité en cas de crise. L'État promet de rester mobilisé. Emmanuel Macron martelait hier soir que la crise pourrait durer, je cite, « des semaines, voire des mois ».
Une crise qui dure des semaines et qui va donc se poursuivre pendant les élections municipales des 15 et 22 mars. L'Élysée n'a pas l'intention de les reporter. Du gel hydroalcoolique et des masques de protection seront disposés à l'entrée des bureaux de vote.
La politique, c'est aussi le rejet attendu, mais le rejet tout de même, des deux motions de censure de l'opposition cette nuit à l'Assemblée.
Édouard Philippe peut donc faire passer sa réforme des retraites sans vote. Elle va maintenant poursuivre son parcours au Sénat, ce sera en avril prochain, avant de revenir à l'Assemblée. Objectif, adoption définitive avant l'été.
L'invité de Sonia Mabrouk à 8h15 ce matin, c'est Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste français.
Europe 1, il est 6h06.
On le donnait politiquement mort il y a deux semaines seulement. Joe Biden est en train de réussir un impressionnant comeback.
Oui, c'était le Super Tuesday. Hier aux États-Unis, des millions d'Américains votaient dans 14 États pour désigner leur candidat démocrate à la prochaine présidentielle. Les résultats sont encore en train de tomber en ce moment, mais de grandes lignes se dessinent.
Jean-Éric Brana, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct sur Europe 1 ce matin. Vous êtes spécialiste des États-Unis et on imagine que vous n'avez pas beaucoup dormi cette nuit pour suivre les résultats de ce Super Tuesday. D'abord, Joe Biden, l'ancien vice-président de Barack Obama, parle d'une bonne soirée qui va devenir encore meilleure.
Oui, c'est ça. Ça a été ses premiers mots. C'est une bonne soirée et on sait pourquoi on appelle ce mardi un super mardi. Et il peut le dire parce que effectivement, ça a été une vague Biden à travers tous les États-Unis. On l'avait vu monter depuis deux jours. Elle s'est concrétisée et même des États dans lesquels il devait être balayé, eh bien, c'est pas ce qui est arrivé. Et au contraire, il est même donné gagnant dans la plupart d'entre eux, comme le Massachusetts par exemple ou le Minnesota. Il est en ce moment en train de disputer la première place dans le Maine, des États que Sanders devait gagner facilement. Et même au Texas, où Sanders s'était donné loin devant, on est en train de compter chaque bulletin avec une grande crise parce que c'est également très serré. Et en Californie, où il y avait la grande timbale de 400 délégués, eh bien Sanders n'a pu faire que 38% avec 25% pour Biden, qui au final se retrouvera peut-être avec plus de délégués au cours de ce Super Tuesday que Sanders. Et ça, c'est vraiment la plus grande des surprises. Le deuxième point, enfin, c'est Mike Bloomberg, qui avec ses 500 millions de publicités n'a pas réussi à s'imposer dans cette campagne, même s'il va avoir une centaine de délégués. C'est vraiment trop limité pour continuer. On s'attend à ce qu'il démissionne dès aujourd'hui.
Alors, qu'est-ce qui pourrait faire basculer la situation? Quel est le candidat dont le ralliement peut éventuellement faire basculer cette situation entre Sanders et Biden?
Alors en réalité, elle a déjà basculé cette situation. On a vu qu'après la victoire en Caroline du Sud, le ralliement de Buttigieg et de Klobuchar a vraiment fait bouger les choses, bouger les lignes. C'est le résultat de ce Super Tuesday aujourd'hui. Mike Bloomberg, en arrêtant sa campagne, amènera ce qui manque à Joe Biden actuellement, c'est-à-dire les fonds, l'argent, les millions qu'il a déjà dans la campagne et qui sont un peu à fond perdu pour l'instant et qui pourraient donc être mieux investis sur un candidat qui peut rassembler le camp démocrate. Les deux super mardis qui s'annoncent mardi prochain et le mardi d'après sont beaucoup plus favorables à Biden encore, notamment le deuxième qui se passera en Floride. Et Biden devrait finir par creuser l'écart avec Bernie Sanders. Chose étonnante quand on regarde l'arithmétique, ce soir Bernie Sanders ne peut quasiment pas obtenir la majorité absolue qui est nécessaire pour avoir l'investiture, alors que Joe Biden désormais peut Et ça, c'est une vraie surprise parce que, encore une fois, il y a une semaine, on le donnait hors course.
Quasiment éliminé il y a une semaine, très éloigné en tout cas des premiers. Merci beaucoup Jean-Éric Brana, on va continuer à suivre avec vous notamment ces élections, avec notre correspondant à New York aussi, dans le journal de 7h, Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis. Et s'il gagnait encore, c'est votre dernier livre, je le rappelle, là vous parlez de Donald Trump, les résultats de ce Super Tuesday tout au long de la matinale d'Europe 1.
Europe 1.
Des dizaines de milliers de migrants à la frontière turque avec l'espoir de passer en Grèce. Nous serons sur place dans une minute seulement avec l'envoyé spécial d'Europe 1, Pierre Herbulot.
À 16h11 sur Europe 1, le journal se poursuit. Hélène Zélani, Mathieu Bélier.
700 millions d'euros, des renforts humains et matériels. L'Union européenne sort les grands moyens pour aider la Grèce à protéger sa frontière.
Il faut dire qu'environ 20 000 migrants tentent de passer du côté turc au côté grec, mais ils vont devoir attendre puisque la Grèce vient de suspendre toute demande d'asile pendant un mois. Pierre Herbulot est l'envoyé spécial d'Europe 1 à la frontière.
Les seuls moments de la journée où la grande grille du poste frontière s'ouvre, c'est pour laisser passer les relèves de militaires et les grands cars bleus de la police, grille de protection aux fenêtres. Devant le portail, avec sa veste du Haut Commissariat pour les réfugiés, Nanou explique à qui veut bien l'entendre que suspendre les demandes d'asile est illégal.
La demande d'asile est un droit humain fondamental et le principe de non-refoulement l'est tout autant dans le droit international. Les deux doivent être respectés.
Le discours sonne creux auprès des locaux qui s'inquiètent de voir arriver des milliers de réfugiés. Pour Costas, la décision de son gouvernement est au contraire courageuse.
C'est illégal, mais ce serait mieux pour la Grèce de garder cette position pour toujours. Ceux qui veulent de ces migrants n'ont qu'à les prendre. L'Allemagne, la France, nous, on n'en a pas besoin.
Tous les nouveaux migrants sont donc en situation irrégulière en Grèce. Dans le centre de la commune, deux d'entre eux sont repérés par un hélicoptère et interpellés par des policiers à moto. Ils passeront la nuit en détention. Leur rêve d'Europe s'est achevé seulement 500 mètres après la frontière. À Castagnès, Pierre Herbulot, Europe 1.
Et à la demande de la Grèce, Frontex, l'agence européenne de surveillance des frontières, se dit prête à déployer une force rapide avec navires, hélicoptères et une centaine de gardes frontières supplémentaires.
Du football à présent avec Kylian Mbappé en maillot bleu. Mais en maillot bleu à Tokyo, ça, on le verra jamais a priori.
Oui, la jeune star parisienne ne défendra pas les couleurs de la France aux Jeux Olympiques l'été prochain. Le PSG refuse de libérer ses joueurs. Une affaire gérée dans la confusion, comme nous le raconte Simon Rubin.
Le rêve, ce serait un triplé Ligue des Champions, Euro, Jeux Olympiques. C'est un rêve, donc voilà, pour moi, ce sera ça.
Le rêve de Kylian Mbappé est donc brisé. En octobre 2018, le prodige du foot français faisait part de son envie de jouer les JO, souhait réaffirmé régulièrement depuis. Lundi, le rêve prenait même de la consistance. Mbappé faisait partie des présélectionnés pour les Jeux. Et finalement, c'est le PSG qui a mis fin à tout espoir. Le club a envoyé un courrier à la Fédération française, l'invitant à ne pas compter sur Mbappé à Tokyo cet été. Paris ne veut pas se priver de sa star pour la reprise du championnat. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais à Paris, rien n'est simple, car le coach Thomas Tuchel n'était au courant de rien dans cette affaire, ni de la présélection de Kylian Mbappé, ni même du refus du club de libérer le joueur. Et puis dire non à Mbappé, à une semaine d'un match crucial en Ligue des Champions, c'est s'exposer à la frustration du joueur, de quoi peut-être même relancer ses envies de départ. Le PSG aurait voulu se tirer une balle dans le pied, il ne s'y serait pas pris autrement.
Et ce soir, Mbappé devrait être sur le terrain pour le match Lyon-PSG, demi-finale de la Coupe de France, coup d'envoi à 21h10.
C'était le journal de 6h et dans le journal de 6h30 avec Jérôme Lacroix, nous reviendrons justement sur ce match Lyon-Paris-Saint-Germain. Est-ce que Lyon peut battre le PSG? C'est la question que nous poserons. Rendez-vous à 6h30 tout à l'heure. Bon réveil.
La matinale d'Europe 1, la suite avec Mathieu Béliard.
Et dans un instant, mon invité inattendu, on va reparler du coronavirus avec les équipes du feuilleton Plus belle la vie. Vous allez comprendre pourquoi.
Europe 1, il est 6h16, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Béliard.
La réforme des retraites adoptée à l'Assemblée. Les deux motions de censure de l'opposition ont été rejetées dans la nuit. Prochaine étape, le Sénat en avril avec adoption définitive prévue d'ici l'été. 212 cas de coronavirus en France, un quatrième décès. Un conseil de défense spécial se tient ce matin autour d'Emmanuel Macron. Le Super Tuesday aux États-Unis vote dans 14 États pour la primaire démocrate. Tous les résultats ne sont pas encore tombés, mais le grand gagnant, c'est déjà Joe Biden.
La météo et une nouvelle dépression se forment au-dessus de l'Atlantique, traverse la France d'ouest en est, des pluies éparses, des averses du nord aux Pyrénées. Le ciel sera lumineux dans le sud-est. Les températures maximales, 10 à Paris et Nancy, 13 à Niort, 15 à Nice et Ajaccio.
Europe 1.
à 6h17 sur Europe 1. L'heure de l'invité inattendue, tous les matins, un sujet dans l'actualité et une voix que l'on n'attend pas pour en parler.
Et ce matin, le coronavirus qui est toujours à la une, bien sûr, les nouveaux cas, la réquisition de millions de masques, la mobilisation des étudiants en médecine aussi pour aider les SAMU, vous l'avez entendu dans le journal de 6h. On parle aussi ce matin de la lutte contre la hausse de certains prix sur certains produits, les gels hydroalcooliques notamment. Je vous attends ce matin au 39-21 que vous essayez d'acheter un gel dont le prix a été multiplié par 5 ou que vous soyez vous-même pharmacien, dites-le franchement. 39-21, le hashtag Europe 1. En tout cas, il y a comme un air de mobilisation générale. Le sujet est toujours à la une.
Et pour en parler, nous appelons l'équipe du feuilleton Plus belle la vie. On est vraiment bien. Et oui, parce que dans quelques jours, vous verrez arriver dans des épisodes qui ressemblent furieusement à la réalité. Épidémie à Marseille, confinement et masques de protection. Les scénaristes ont eu du flair.
Bonjour Pierre Monjamel.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes directeur de collection sur Plus belle la vie, c'est bien cela?
Oui, c'est tout à fait ça.
Alors d'abord, ça veut dire quoi, directeur de collection?
Ça veut dire que j'orchestre, je dirige l'écriture des scénarios de Plus belle la vie.
Et on va parler des scénarios justement, mais alors avec ce qui est une pure coïncidence, hein. Enfin, vous allez peut-être me dire le contraire, mais printemps 2019, des séances de travail sont organisées et un de vos auteurs arrive avec l'idée d'une quarantaine avec un virus de type SRAS. Si on faisait une quarantaine avec un virus dans un hôpital marseillais, puis au mois de juin 2019, hein, l'idée est approuvée par la chaîne, s'ensuit l'écriture d'un épisode, de plusieurs épisodes?
Alors, à ce stade que vous décrivez, on a un synopsis, donc on a 5-6 pages écrites sur le sujet. Et on se pose la question de la programmation. Quand est-ce qu'on va le faire? Et comme c'était une histoire qui était forte et qui allait conditionner un huis clos avec beaucoup de personnages, et c'était un dispositif qui ressemblait un peu à ce qu'on a fait au Prime au mois de septembre, j'ai décidé de mettre, c'est en 2019, mettre environ 6 mois d'écart entre les deux.
D'accord.
Donc 6 mois plus tard, ça tombe mars 2020.
Et donc au mois de mars, on va pouvoir avoir les personnages de Plus belle la vie confinés, qui portent des masques, qui utilisent du gel hydroalcoolique. Enfin, ça va furieusement ressembler à ce qu'on est en train de vivre en ce moment.
Oui, c'est très troublant en fait. C'est très troublant parce que on a écrit ça donc la dernière mouture de ce qu'on a mis nous à l'écriture, c'était au mois de novembre. Donc derrière, il y a un processus de tournage et en cours de ça, au mois de janvier, on a vu arriver un événement dans la réalité qui ressemblait foutrement à ce qu'on avait mis dans la série voilà.
Il y a des thèmes de
très proches de la réalité.
Depuis toutes ces saisons dans Plus belle la vie, on a déjà remarqué qu'il y a des thèmes de société qui sont traités chez vous. Je me souviens, on a beaucoup évoqué le mariage pour tous à l'époque. Il y a des questions comme la drogue, la violence, la police. Tous ces sujets de société se retrouvent dans la série. Mais là, on est d'accord que c'est une pure coïncidence. Vous ne cherchiez pas à raisonner avec l'actualité.
Tout à fait. Le mariage pour tous, on avait anticipé la loi. En fait, on suivait, on essayait de se coller au moment où la loi allait passer, et on y est arrivé. C'était une stratégie. Là, on essaye d'être dans l'air du temps, c'est-à-dire on essaye de raconter une histoire qui arriverait en 2020, mais qui cherche à lui donner une modernité, une réalité, mais on cherche pas du tout à raisonner avec l'actualité telle qu'elle est là.
Mais je vais faire sourire nos auditeurs, hein, mais je donne quelques mots de l'intrigue, hein, sans raconter l'épisode. Oui. Ce sont des gens qui sont en quarantaine à l'hôpital, ils ne peuvent pas accéder à l'extérieur. Il y a un virus qui arrive à Marseille et le patient zéro est identifié comme revenant d'Asie. Le virus n'est détectable uniquement sur des symptômes comme la fièvre, etc., etc. Bon, la maladie se soigne, je crois. J'ai pas vu les épisodes, évidemment. Je crois que vous êtes aussi gêné parce que du coup, le public, vos spectateurs, vont arriver devant les épisodes avec une fine connaissance du traitement d'une épidémie, ce qui n'était pas prévu non plus.
Alors c'est vrai que on essaye d'être réaliste et le plus possible, mais on écrit très très vite, donc on n'est pas absolument vrai sur tout ce qu'on met tout le temps. Mais il y a des sujets où le public est très très averti. Donc on est extrêmement pointu pour pas, parce qu'on sait qu'il va voir.
Avoir un public de spécialistes. Hein. Tout le monde est monté, expert en épidémiologie.
Mais heureusement qu'on a fait appel à un spécialiste pour écrire ce truc-là. Je pense qu'on ne dit pas trop de bêtises. Voilà.
Oui, je sais, vous avez été aidé par un spécialiste pour l'écriture, mais pour les décors aussi, le vocabulaire, les pratiques, pour que ce soit le plus réaliste possible. Alors quand est-ce que ça commence cette épidémie dans Plus belle la vie à la télé?
Le 12 mars.
C'est dans une semaine. Dans une semaine.
C'est vraiment c'est complètement fou. Le 12 mars, et elle dure stricto sensu la quarantaine, proprement dit, une dizaine de jours.
Eh bien, on va voir si ça marche surtout. Je suis un peu curieux, Pierre Monjanel. On va voir surtout si voilà, les Français ont envie de retrouver ce climat d'épidémie dans un contexte de fiction. En tout cas, Plus belle la vie, ça continue de cartonner. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions en direct ce matin, du lundi au vendredi, 20h25 sur France 3. Je dis pas de bêtises.
Tout à fait, c'est exactement ça.
Merci beaucoup, Pierre Monjanel.
Merci à vous.
Merci d'avoir beaucoup joué le jeu de l'invité inattendu ce matin, pour le coup, dans cette actualité que l'on traite énormément, faut bien le dire, le coronavirus. Je ne m'attendais pas à ça. Plus belle la vie, la semaine prochaine, nos auditeurs diront ce qu'ils en ont pensé. Il est 6h23.
Laurent Cabrol dans un instant pour la météo, le journal de 6h30 avec Jérôme Lacroix.
Et notre rendez-vous à la ferme, Fanny Agostini, qui va nous apprendre à fabriquer des meubles avec les résidus de la fabrication de la bière. A tout de suite.
Europe 1, il est 6h25, vous écoutez Mathieu Béliard.
Et Fanny Agostini, notre rendez-vous à la ferme du côté de l'Auvergne. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu.
Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien.
Qu'est-ce que j'aime cette chanson de Jacques Brel. Ma chère Fanny, on va parler malte, orge, on va parler bière ce matin. Vous nous dites qu'à partir de la bière, on peut maintenant faire des meubles.
Oui, imaginez-vous, Mathieu, boire une bière et en même temps vous asseoir dessus. Vous asseoir sur ce que l'on appelle du mobilier brassé. On peut effectivement fabriquer des chaises, des tabourets, des tables, des bancs, des lampes, des panneaux acoustiques et tout un tas d'accessoires brassicoles comme des dessous de verre ou des caisses de transport à partir de la bière.
Mais pas la bière en elle-même, bien sûr, mais les résidus liés à sa fabrication, c'est bien ça ?
Oui. Car ce qu'il reste en bout de chaîne de production après avoir brassé la bière, c'est ce qu'on appelle la drèche, c'est-à-dire le moût de malt ou des autres céréales qui sont rentrées dans sa confection. Et une infime partie de cette drèche est utilisée en fait pour le compost ou pour les animaux d'élevage, mais globalement c'est du déchet qui fermente en déchetterie. Le ratio, c'est en moyenne 300 kg de drèche pour 1000 litres de bière brassée, en sachant que 2 milliards de litres de bière ont été consommés par exemple en 2017. Ça laisse imaginer des monticules de drèche qui sont même économiquement et logistiquement compliqués à gérer.
Alors du coup, cette drèche peut trouver aujourd'hui une nouvelle vie.
Une nouvelle vie pour ces résidus fibreux qui sont en fait une matière extraordinaire pour mouler des meubles légers, résistants, flexibles, malléables et imperméables. Et c'est encore un exemple, Mathieu, alors là un exemple effectivement rafraîchissant avec la bière, un exemple parmi tant d'autres tout aussi surprenants qui doit nous faire penser la conception et la fabrication de tout ce qui nous entoure autrement, particulièrement dans les process industriels qui rejettent des quantités massives de chutes ou de résidus en tout genre. Le mot déchet en 2020 est presque un gros mot, j'ai envie de dire, assez vulgaire en tout cas, dans un monde où le gaspillage n'a plus sa place.
Est-ce que vous connaissez Fanny Agostini ? Là, j'essaie de vous surprendre, même si on boit vos paroles ce matin, Fanny Agostini. Est-ce que vous connaissez Ramen Tedresh ? Non, ramen, non. Ça s'écrit comme les nouilles asiatiques.
Oui, les pâtes.
Et ce sont des personnes qui ont voulu innover aussi avec les drèches de bière et qui font des pâtes à partir de ces restes de bière aussi. Comme ça, on continue à ne pas jeter. On peut manger sur une table faite à partir de drèches de bière, des drèches en ramen. Enfin bref, tout en buvant une bière. Tout va bien, Fanny Agostini.
Parfait,
merci
parfait.
Beaucoup. Le rendez-vous à la ferme, tous les matins, on apprend des choses au contact de la nature. Vous retrouvez Fanny Agostini sur europe1.fr. 6h27, à tout de suite.
6h28, Mathieu Béliard sur Europe 1.
J'en ai marre que t'aies tes règles. À quoi ça sert d'avoir une femme si je ne peux pas baiser avec ? Voilà quelques-unes des réponses collectées par le collectif féministe Nous Toutes qui nous apprend ce matin que 9 femmes sur 10 qui ont répondu à leur enquête, 9 femmes sur 10 ont déjà eu une relation sexuelle non désirée avec leur partenaire. On est dans un sujet tabou. MeToo arrive dans le couple et on en parle avec Caroline Dehaas juste après le journal de 6h30. 6h29. Bon réveil à toutes et à tous. Laurent Cabrol est avec nous pour la météo.
Et avec la pluie qui est là, bien sûr, elle est arrivée. Bretagne, Basse-Normandie, Pays de la Loire, toutes les côtes atlantiques sont concernées déjà par la zone de pluie. Les Pays de la Loire et la Basse-Normandie progressivement. Le Poitou-Charentes touché. Le Sud-Ouest, touché. Le Limousin. La région parisienne sera concernée en deuxième partie de journée. comme le Berry, l'Auvergne, le Languedoc-Roussillon, le Nord, la Picardie, la Champagne-Ardenne, toutes ces contrées également en deuxième partie de journée. Bon, profitez de la matinée en quelque sorte. Sur l'Alsace, la Provence, la Côte d'Azur, c'est un temps qui devrait rester encore relativement sec avant la nuit prochaine. Les températures, donc vous avez compris, hein, pratiquement tout le monde aura un passage pluvieux. Les températures maximales, Ombly nous en a donné quelques-unes. Je rappelle, 10 à Paris, 10 à Lille, 11 à Lyon, 12 à Cognac, 14 à Marseille, 15 à Nice. Et en ce moment, ma foi, il faut se couvrir. Hein. Nancy, Strasbourg, pas loin de 0 degré. 3 à Lille, 4 dans la capitale, 5 à Lyon, 6 à Nantes, 8 à Marseille. Voilà, je crois que vous avez tous les ingrédients pour passer une bonne journée. Et on vous la souhaite.
Et c'est déjà une belle promesse. Merci beaucoup, mon cher Laurent Cabrol. Bonjour Jérôme Lacroix.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe 1, il est 6h30.
10 boîtes sont quasiment finies. Il en faudrait des dizaines pour couvrir l'étendue de notre chalandise en pharmacie.
Le gouvernement réquisitionne les stocks et la production de tous les masques contre le coronavirus. La France durcit encore les mesures face à l'épidémie.
Un quatrième décès enregistré hier, 212 malades depuis janvier et la découverte d'un nouveau foyer en Alsace.
Dans ce journal, le projet de loi retraite voté en première lecture, rejet des deux motions de censure.
La résurrection de Joe Biden dans la primaire démocrate aux États-Unis.
Et puis l'ambition des footballeurs lyonnais, ils rêvent d'une finale de Coupe de France.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La mobilisation contre le coronavirus s'amplifie.
Un quatrième décès annoncé hier, un homme de 92 ans dans le Morbihan, 212 personnes contaminées depuis janvier. Le gouvernement annonce la réquisition de tous les stocks ainsi que l'ensemble de la production française. De tous les masques de protection, décret publié cette nuit, ils seront réservés ces masques aux médecins et aux personnes touchées par le virus.
Le gouvernement entend notamment mettre fin aux achats compulsifs de ces masques. L'approvisionnement est insuffisant, comme le déplore Éric Barbancé, pharmacien à Marseille.
La peur s'est emparée de tout le monde, même des professionnels de santé. Et en ce moment, c'est une pénurie. On vient à peine de recevoir une dizaine de boîtes de masques qui sont allouées par l'État uniquement pour les professionnels de santé, à savoir les médecins, les infirmiers, les dentistes, sages-femmes et kinésithérapeutes uniquement.
Et là, il y a des petits post-it sur les boîtes. Donc vous savez déjà à qui vous allez livrer.
Les professionnels de santé sont venus déjà nous voir pour prendre en premier leur dû. Nos 10 boîtes sont quasiment finies.
Et c'est pas suffisant?
Absolument pas. Il en faudrait des dizaines pour couvrir l'étendue de notre chalandise en pharmacie au moins. Les livreurs même les camouflent parce qu'ils ont peur d'être pris pour cible. Ah oui, la situation devient vraiment extraordinaire. On dirait qu'on transporte de l'or ou des cigarettes. C'est hyper tendu. Les gens deviennent assez irascibles. Même les professionnels de santé, ceux qui n'en auront pas, trouveront ça inacceptable. Et ce sont les pharmaciens qui auront les comptes qui seront pris pour cible.
Et ces masques qui parfois sont même volés à Marseille. Justement, 2000 masques chirurgicaux disparus à l'hôpital de la Timone volent dans des hôpitaux parisiens aussi, 8000, ainsi que des flacons de gel hydroalcoolique.
Et par ailleurs, une question qui se pose avec l'amplification de la crise, que faire des déchets médicaux contaminés, dont les masques qui ne doivent être portés que quelques heures par jour.
La PME Thésalis est spécialisée dans le traitement de ces déchets. Pour Europe 1, Benjamin Peter s'est rendu dans les locaux à Saint-Jean près de Toulouse. Les commandes affluent notamment depuis l'Asie.
On en a pas mal qui sont prévus pour l'Indonésie. Il y en a quelques-unes qui sont en train d'être produites dans le cadre du contrat avec la Chine.
Le chiffre d'affaires a bondi de près de 50%. Mickaël Lozano, le président de Thésalis, voit les commandes affluer, notamment d'hôpitaux asiatiques, pour installer son broyeur d'objets contaminés directement dans les établissements. Seringues, gants, masques, tout est mis dans un carton stérile qu'on place ensuite dans ce décontaminateur de la taille d'un gros photocopieur.
On coupe les déchets en petits morceaux et puis ensuite on va stériliser. Donc on utilise de la vapeur, une température de 135 degrés, on va inactiver tous les micro-organismes vivants. La plupart des déchets sont aujourd'hui transportés par des camions spécialisés vers des usines de traitement d'incinération. On pourrait très très bien, avec des systèmes comme ça, éviter tous ces camions qui se baladent avec des déchets contaminés.
Moins de déplacements, ça veut dire moins de risque de contamination. En fin de cycle, on récupère des confettis inoffensifs qu'on peut jeter à la poubelle. Alors une machine a déjà été livrée à la Chine la semaine dernière à destination de Wuhan. Une cinquantaine d'autres sont prévus et en France, une dizaine de centres hospitaliers ont contacté cette PME pour s'équiper. À Saint-Jean, Benjamin Peter, Europe 1.
Et hier, découverte d'un nouveau foyer du virus à Mulhouse, quartier Burtzwiller. Cette contamination survenue le mois dernier au cours d'un rassemblement religieux dans une église.
La situation va durer des semaines et sans doute des mois, a prévenu hier Emmanuel Macron. Un conseil de défense spécial est prévu ce matin à l'Elysée.
Europe 1, il est 6h34.
Le projet de loi retraite voté en première lecture à l'Assemblée après usage du 49-3, les deux motions de censure, l'une de droite, l'autre de gauche, ont été rejetés hier soir.
On s'y attendait, hein, bien sûr. L'hémicycle est dominé par La République En Marche. La NAPAN, empêcher une nouvelle nuit de débat électrique. Une nuit suivie pour Europe 1, par Adrien Beck.
Ça fait quand même beaucoup de bien quand ça s'arrête. Hein.
Plus de 7 heures de débat au perchoir pour Richard Ferrand. Presque autant de foires d'empoigne dans l'hémicycle entre cris, brouhaha venus de l'opposition comme de la majorité. Le communiste André Chassaigne.
J'avoue que vos gargouillis et vos cris me provoque un certain plaisir à l'oreille.
L'obstruction, ce n'était pas nous, surjoue la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon dénonce une loi adoptée sans vote.
Vous serez, dès demain matin, la risée du monde civilisé démocratique.
À droite, on renvoie dos à dos gauche et gouvernement. Le 49-3 aurait pu être évité, dit le patron des députés LR, Damien Abad.
Certes, j'ai bien compris, monsieur le Premier ministre, que le président de la République préfère les amateurs aux professionnels. Mais le paradoxe, c'est que vous êtes devenus les professionnels de l'amateurisme.
Un peu à contre-courant, Édouard Philippe défend finalement longuement sa réforme et tacle les conservateurs.
Ceux qui défendent le statu quo racontent bien trop souvent des calembres d'aine. Ils se payent de mots.
Cet après-midi débute l'examen du deuxième volet de la réforme et cette fois, l'exécutif ne pourra pas utiliser le 49-3.
Et moins d'articles, mais 1800 amendements à tout de même pour ce projet de loi organique. La suite, ce sont les débats au Sénat le mois prochain avant un retour à l'Assemblée pour une adoption définitive, toujours espérée par l'exécutif avant l'été.
Un super Tuesday aux allures de super comeback pour Joe Biden. L'ancien vice-président de Barack Obama sort, semble-t-il, grand vainqueur du vote cette nuit aux États-Unis pour l'investiture démocrate.
Vainqueur dans au moins 8 des 14 États qui votaient cette nuit devant son rival Bernie Sanders. On attend d'ici peu les résultats au Texas et en Californie, deux États décisifs. Le milliardaire Michael Bloomberg, soumis au vote pour la première fois, est à la peine.
Et nous serons en direct des États-Unis dans le journal de 7h avec Xavier Yvon, correspondant européen.
Les matchs de Ligue des champions de foot sont maintenus par l'UEFA. L'Europe du foot laisse les gouvernements de chaque pays concerné prendre la décision et concerner notamment Paris Saint-Germain, Dortmund la semaine prochaine, toutefois sous la menace d'un huis clos.
Ce soir à Lyon, il y aura bien des spectateurs dans les gradins du stade pour Lyon-PSG, match franco-français, demi-finale de Coupe de France, des Rodaniens ambitieux portés par des bons résultats récents. Christophe Lamar.
Ni calcul ni mauvaise pensée, Lyon jouera le coup à fond. Après tout, une finale de Coupe de France, cela ne se boude pas. Promis donc, Rudy Garcia, pas plus que ses joueurs, n'ont l'œil rivé sur l'Italie et ce huitième de finale retour contre la Juventus dans 15 jours. Certains mélangent les genres, l'entraîneur lyonnais refuse de mélanger les matchs et surtout de choisir.
Moi je veux pas choisir, faire des choix des fois en faisant des calculs c'est jamais bon. On est à un pas de nouveau d'un Stade de France et d'une finale. Donc jouons celui-là et puis on fera le point après pour le suivant.
Lyon et Paris sont d'ailleurs inséparables. Ils se retrouveront dans un mois en finale de la Coupe de la Ligue, dont ce sera d'ailleurs la dernière édition.
Lyon, PSG, coup d'envoi 21h10 et seconde demi-finale de cette Coupe de France. Saint-Étienne-Rennes demain.
Merci beaucoup Jérôme Lacroix, c'était le journal de 6h30. Un nouveau journal à 7h tout à l'heure. Comment est-ce qu'on gère ce coronavirus dans les EHPAD notamment? Reportage à l'ouverture du journal de 7h avec Marion Calais.
Europe 1. La matinale d'Europe 1, la suite, Mathieu Béliard avec votre invité.
Sujet tabou, la question du viol dans le couple. Et la question n'est pas posée ainsi parce que c'est tabou justement. On n'utilise pas le mot viol, mais 9 femmes sur 10 qui répondent au collectif Nous Toutes avoir déjà eu une relation sexuelle non désirée avec leur partenaire. On en parle dans un instant avec la militante féministe, membre du collectif Nous Toutes, Caroline Dehaze.
Europe 1, il est 6h39. Votre invité Mathieu Béliard, c'est la militante féministe, membre du collectif Nous Toutes, Caroline Dehaze.
Bonjour Caroline Dehaze.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio ce matin. On va tout de suite évacuer ça. Ça n'est pas une enquête scientifique que vous avez réalisée avec le collectif Nous Toutes, c'est un questionnaire en ligne. Mais vous avez été surprise par la quantité des réponses. 100 000 réponses en une dizaine de jours. Essentiellement des femmes qui ont moins de 35 ans, c'est
ouais,
ça, trois quarts des répondantes. Donc voilà pourquoi ça n'est pas représentatif de la population. Cela dit, on parle consentement sexuel dans le couple, on parle intimité, on parle relation sexuelle dans le couple, et 9 répondantes sur 10 déclarent avoir déjà eu une relation sexuelle non désirée avec leur partenaire. Allons-y, franchement, on parle de viol, là?
Pas forcément, puisque pour être caractérisé, le viol, ça doit être un acte de pénétration commis avec contrainte, menace, surprise ou violence. pour prouver le viol sur le plan juridique, hein, je parle pas, il peut y avoir des viols qui sont pas prouvés parce qu'il n'y a pas les éléments matériels, mais qui ont quand même eu lieu. Mais pour caractériser le viol sur le plan juridique, il faut prouver contrainte, menace, surprise ou violence.
Parce que le mot est absent de l'enquête.
Ouais, ce qu'on a d'abord voulu mesurer, en fait, dans l'enquête, avant de parler des violences et donc des agressions sexuelles ou du viol, ce qu'on a voulu mesurer, c'est tout ce qui concerne la pression. C'est-à-dire quand des femmes vont soit se forcer, soit quand elles vont subir une pression de leur partenaire. Et ce qui est intéressant, c'est que pour nous, c'est assez représentatif du fait que le couple, l'intimité, n'est pas à l'abri des inégalités qui existent dans la société. Il y a les inégalités femmes-hommes au travail, dans la rue, à la cuisine, à l'école, partout. Il y en a aussi dans nos intimités. Et ces inégalités qui existent dans nos intimités, elles ont comme conséquence que le plaisir des femmes, le désir des femmes, les envies des femmes sont souvent niées, minimisées, ignorées.
Alors, je vais faire attention avec les mots. On ne parle pas juste, et je vais vraiment mettre des guillemets sur le mot juste, d'inégalité salariale, par exemple, comme on les trouve en entreprise. Là, on parle d'un rapport dominant-dominé.
Oui, après, quand vous rentrez dans l'intimité des couples, le mot dominant-dominé, c'est un mot qui est dur, y compris individuellement, de se dire qu'on est dominant ou dominé, c'est pas très agréable, à pas encore 7h du matin, d'entendre ça. C'est évident que c'est des sujets qui sont beaucoup plus intime, sensible que uniquement la question des inégalités professionnelles. Mais en fait, ça relève pour moi des mêmes mécanismes. C'est-à-dire qu'on a un rapport d'inégalité qui existe dans la société et qui se reproduit dans le couple. Le rapport à la sexualité, il n'est pas à l'abri de ce qui se passe dans la société. Et lorsqu'on discute avec ces femmes, en particulier ces jeunes femmes, on se rend compte qu'elles connaissent peu leur corps, qu'elles connaissent peu leurs désirs, qu'elles n'ont pas forcément l'impression qu'elles peuvent les exprimer et qu'elles ont en face d'elles des partenaires qui connaissent peu le corps de leurs compagnes et qui n'ont pas forcément le souhait, l'idée de leur demander ce qu'elles veulent, comment elles voudraient faire. Et qui vont avoir tendance parfois à mettre la pression pour obtenir un acte sexuel sans tenir compte du consentement de leur compagne.
Et c'est pour ça qu'il faudrait peut-être déjà que ce soit un tout petit peu moins tabou. Alors, il y a ce nouveau mot, il n'est pas nouveau le mot, mais il a surgi dans le débat public avec le livre de Vanessa Springora, le mot consentement. Et vous dites, c'est important, que dire oui, céder ou accepter, ça n'est pas synonyme de consentir.
Oui, c'est-à-dire que le consentement, il doit être libre, éclairé. Et ça implique qu'il n'y ait pas de rapport de pression, qu'il n'y ait pas de chantage et qu'il n'y ait pas à aucun moment un acte de violence. Quand on pose la question aux femmes, est-ce que vous avez déjà par exemple entendu des remarques dévalorisantes ou est-ce que vous avez déjà subi des violences, par exemple on vous impose un acte avec pénétration sans votre consentement ou on vous impose un acte sexuel, c'est pas forcément avec pénétration mais ça peut être le fait de se masturber sur sa compagne ou de lui imposer par exemple un cunnilingus, ces actes-là, il y a 8 femmes sur 10 qui disent qu'elles en ont déjà fait l'expérience. Quand vous êtes dans un rapport où il y a de la violence, votre consentement, il est difficilement libre et éclairé.
Est-ce que, parce qu'on parle du couple là, on parle vraiment du couple, alors pas forcément des couples mariés, hein, on parle d'une femme avec son conjoint, est-ce qu'il existe ce qu'on appelle une zone grise ?
Moi, je trouve que le mot « zone grise », en fait, il est bien pratique pour masquer des violences, en réalité. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un rapport libre, éclairé, à égalité, l'autre parfois dit non ou fait comprendre que non, parfois dit oui ou fait comprendre que oui, bien sûr, tout de suite. Et en fait, vous êtes à l'écoute de l'autre, donc vous comprenez l'autre. Si vous n'êtes pas dans ce rapport d'écoute et de respect, en fait, il n'y a pas de zone grise, vous êtes dans un rapport d'inégalité. Il n'y a pas entre les deux.
Voyez, est-ce qu'on peut évacuer aussi tout de suite une notion, la notion de devoir conjugal?
Elle a disparu de la loi depuis quelques années.
Oui, mais pas beaucoup d'années.
Elle n'a pas disparu de nos imaginaires et de nos représentations collectives. Il y a 2 ou 3 ans, il y a une magistrate dans une décision de justice qui avait reproché à une dame de ne pas avoir fait son devoir conjugal. Donc, c'est encore présent dans l'imaginaire collectif. En fait, quand on n'a pas envie d'avoir un rapport sexuel, on n'a pas à avoir un rapport sexuel. Quand on a envie d'avoir un rapport sexuel, il faut juste vérifier que l'autre est d'accord. Et le moyen le plus simple de savoir si l'autre est d'accord, c'est de lui poser la question.
Quelques données quand même dans votre étude, parce que j'insiste sur le 9 sur 10, qui est le chiffre le plus impressionnant, mais il y a une série de questions par exemple. Votre partenaire vous a-t-il pénétré sans votre accord préalable, alors que vous étiez éveillé? Ou alors, même question, dans votre sommeil? Ou alors, une autre question, un partenaire a-t-il profité du fait que vous étiez alcoolisé ou plus en pleine possession de vos moyens, etc., etc. Si on prend ces 3 phrases, on a plus d'une femme sur 2 qui répond oui. Là, on parle de viol, Caroline Dehas.
Alors, on parle de rapport sexuel non consenti avec pénétration. Pourquoi on a choisi de ne pas mettre le mot viol dans l'enquête? Parce que si on avait mis le mot viol, je ne suis pas sûre que les femmes auraient toutes répondu de la même manière. Parce que pour beaucoup de femmes, un rapport sexuel avec pénétration sans consentement, elles mettent pas forcément le mot viol dessus. D'abord parce qu'elles savent pas forcément la définition, et ensuite parce qu'en fait c'est très difficile de reconnaître qu'on a été victime de viol. Ça renvoie une image
d'une
de soi-même,
générale, mais d'une manière générale, mais particulièrement de son conjoint.
Ouais, ou mais pas, en, en général, je pense, ça dépend. Vous voyez, en général, en particulier, en effet, quand ça vient de la personne qu'on aime ou avec laquelle on vit ou avec laquelle on a construit sa vie. Et donc, le fait de mettre le mot viol, c'est douloureux. Et c'est pour ça qu'on a précisé, on a préféré définir les actes plutôt que de mettre le mot dessus.
Alors, je voudrais vous donner écouter quelques voix. C'est un micro-trottoir réalisé sur la base de votre étude par Élodie Wilfried de la rédaction. Elle est allée à la rencontre de jeunes femmes qui témoignent précisément de ce sujet tabou.
J'étais endormie et du coup je m'en suis pas forcément rendu compte tout de suite. J'avais dit non plusieurs fois et quand la personne elle revient dans la nuit, c'est pas du consentement.
Oh là là, t'as jamais envie, comment ça se fait, t'es pas normal, pourquoi t'as pas envie, je te fais pas plaisir. Mais le plus souvent je dis ok c'est bon, allez, pour pas que tu me fasses la gueule quoi.
Je me suis dit si jamais je le fais pas, est-ce qu'il va me quitter, est-ce qu'il va le raconter, je savais pas trop comment aborder la situation et puis bah ça s'est passé quoi.
On sait qu'on n'avait pas envie en soi et que si c'était à refaire on le ferait pas en fait, donc c'est peut-être là qu'on se dit qu'il y a un problème.
Il y a plusieurs données vraiment essentielles dans votre étude, aussi sur le premier rapport sexuel où l'on apprend ou alors on confirme qu'une femme sur 10 a cédé aux attentes de son partenaire pour la première fois. La question aujourd'hui, on l'entendait à la fin, là, c'est la question de l'éducation, Caroline Dehas.
Oui, alors nous d'abord ce qu'on demande au gouvernement c'est de faire une enquête massive, représentative, qui permet de regarder la réalité de cette problématique-là chez les jeunes comme chez les moins jeunes. Puis la deuxième chose c'est qu'on a un outil pour apprendre dès le plus jeune âge à respecter le consentement de l'autre dans les rapports humains et donc après plus tard dans les rapports sexuels. Ça s'appelle l'éducation nationale. On apprend par exemple aux enfants dès le plus jeune âge à respecter le code de la route. Pourquoi est-ce qu'on n'apprendrait pas aux enfants dès le plus jeune âge à respecter le corps de l'autre, le consentement de l'autre ?
J'insiste aussi sur un point et je le souligne pour nos auditeurs parce que ça se passe en ce moment en Espagne. La loi Seul un oui est un oui qui va durcir la législation sur le viol présentée par le gouvernement espagnol hier qui va introduire l'obligation d'un consentement explicite après un scandale de viol en réunion qui avait bouleversé l'Espagne, qui avait bouleversé le pays là-bas. Caroline Dehas, merci beaucoup.
Merci.
On retrouvera les détails de cette enquête évidemment sur Europe1.fr et la suite côté éducation et puis côté enquête du gouvernement, on la traitera évidemment sur Europe 1. Merci beaucoup d'avoir répondu nos questions ce matin. Il est 6h47.
La suite de la matinale d'Europe 1. Dans un instant, notre revue de presse internationale.
Et on va partir pour l'Italie. L'Italie choquée par un sketch de Groland. Groland en France au sujet du coronavirus. Écoutez.
Cette émission vous est présentée par la pizza Corona.
La nouvelle pizza italienne qui va faire le tour du monde.
Et les Italiens sont en colère, on va retrouver notre correspondante. Le Tour du Monde, c'est la revue de presse internationale justement dans un instant.
6h50, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Béliard.
Un quatrième décès lié au coronavirus en France. Un homme de 92 ans dans le Morbihan, 212 cas recensés dans le pays depuis janvier et la découverte d'un nouveau foyer à Mulhouse. Le gouvernement se prépare à un renforcement de l'épidémie. Le président annonce notamment la réquisition de tous les stocks et l'ensemble de la production française de masques de protection seulement réservés aux médecins et aux personnes malades. L'Assemblée nationale rejette les deux motions de censure de l'opposition. De fait, le projet de loi retraite est adopté en première lecture après usage de l'article 49.3 de la Constitution.
La météo, une nouvelle zone de pluie, elle arrive par la façade atlantique à l'image d'hier. Les pluies progressent de la Bretagne, les pays de la Loire, l'Aquitaine jusqu'au centre, le bassin parisien. Les températures maximales, 9 degrés à Épinal, 11 à Brioude et Albertville, 13 à Brest et Montpellier. La revue de presse internationale à présent sur Europe 1.
Et c'est notre réseau de correspondants sur tous les continents, réseau que vous retrouvez tous les matins à 7h-10. La revue de presse internationale avec Charlotte Simonard au Kenya pour Europe 1. Bonjour Charlotte.
Bonjour Mathieu.
À la une au Kenya.
L'université de Nairobi fait les gros titres ce matin, critiquée pour un mémo dans lequel elle accuse des étudiantes victimes de viol d'avoir eu une attitude insouciante. La direction donne quelques conseils aux jeunes filles, ne pas boire d'alcool et limiter ses sorties. Voilà de quoi créer une vive polémique sur les réseaux sociaux, très influents ici au Kenya. Beaucoup dénoncent une normalisation du viol et la culpabilisation des victimes. Alors suite à ce tollé, la presse locale a fini par traiter le sujet. mais pas de prise de position des principaux médias. Il faut dire que le viol, bien que puni par la loi, est considéré comme relevant de la sphère privée, un véritable tabou dans cette société très puritaine. Cela explique que seuls 15% des viols sont dénoncés.
Ces questions finalement soulevées dans le monde entier, vous l'aurez compris. Merci Charlotte. Hélène Kohl est à Berlin pour Europe 1. Bonjour Hélène.
Bonjour Mathieu.
De quoi est-ce qu'on parle en Allemagne ?
À la une, la Thuringe, qui va connaître une journée à haut risque, nous dit le Süddeutsche Zeitung. Voilà un mois que la région est en crise, sans président, car celui qui avait été élu il y a un mois, souvenez-vous, l'avait été avec le soutien de l'extrême droite. Alors aujourd'hui, nouvel essai, nouveau vote au Parlement. On a trouvé un compromis pour laisser en place le président sortant d'extrême gauche pendant un an, avant de nouvelles élections. Si la droite modérée s'abstient, le compte est bon et l'on peut sauver la face dans cette farce dramatique, estime le magazine Stern. Sauf que lundi, l'extrême droite a annoncé qu'elle aurait elle aussi un candidat, et pas n'importe lequel, le leader fasciste de l'AFD locale, Björn Höcke. En plus de ses propres élus, il lui suffit de quelques voix pour bloquer le scrutin et peut-être même s'emparer de la Thuringe. Un scénario envisageable, tranche un politologue dans Focus.
Hélène Kohl à Berlin pour Europe 1. Blandine Hugonnet est à Rome. Bonjour Blandine.
Bonjour Mathieu.
Qu'est-ce qui fait la une en Italie ?
C'est une vidéo relayée ici par toute la presse et qui fait polémique sur une pizza au coronavirus. Une vidéo française diffusée par l'émission Groland sur Canal+, qui montre un pizzaiolo malade qui éternue sur une pizza sortie du four. Ce sketch écœurant accuse les Italiens de répandre l'épidémie, dénonce Il Giornale. C'est inacceptable, honteux, immonde. Un dérapage qui prend pour cible un symbole de l'Italie et qui indigne toute la classe politique, écrit le Corriere. Exaspéré, le ministre des Affaires étrangères a sollicité l'ambassade italienne à Paris pour exiger le respect, surtout dans cette période délicate, explique la Repubblica. L'Italie est le pays le plus touché d'Europe par ce virus. Et Canal+ a fini par présenter ses excuses pour une séquence de très mauvais goût. La Stampa en conclut: décidément, pas toujours facile de comprendre l'ironie de la patrie de Charlie Hebdo.
Oui, la patrie de Charlie Hebdo, pas toujours de très bon goût, non, mais Groland, je crois que c'est volontairement de mauvais goût. Après, il faut l'expliquer à l'international, c'est plus compliqué. Merci Blandine Hugonnet, nous étions en Italie, en Allemagne et au Kenya. C'est la revue de Presse internationale tous les matins sur Europe 1.
Europe 1. La météo avec Laurent Cabrol, le journal de 7h dans un instant, Marion Calais.
Et Mathieu Noël en studio avec nous, à tout de suite.
6h55, la matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
Et Mathieu Noël qui est en studio avec nous. Bonjour Mathieu. Et
bonjour à tous, bonjour Ambline, bonjour cher Mathieu.
Bonjour.
Et si Mathieu, si vous quittiez tout, si vous bazardiez votre CDI à Europe 1, votre carte de presse et même Ambline pour vous lancer dans l'écriture de romans. C'est ce qu'a fait il y a 6 ans mon invité du jour Aurélie Valogne. Elle a suivi un atelier d'écriture, premier roman auto-édité. Résultat, pas vraiment la musique de Bouillon de Culture, plutôt celle du loto. 1 million d'exemplaires vendus. Aurélie Valogne qui publie Né sous une bonne étoile fait partie désormais des 5 auteurs les plus lus en France. Anatomie d'une success story à 16h avec toute la bande de l'équipe et sauvage. Un enseignement majeur en vue, ne jamais cesser d'y croire. Aurélie Valogne a vu son premier manuscrit refusé de toutes les maisons d'édition. Il faut toujours continuer d'y croire et aller au bout de ses rêves, comme Lolo Cabrol. Il y a des matins moins faciles que d'autres, on est d'accord. Des matins où les mots, certainement engourdis par l'hiver, ont du mal à se frayer un chemin jusqu'à la bouche. Mais dans ces cas-là, il y a une méthode infaillible, Lolo. S'auto-engueuler.
Dans cet ensemble de régions, les pluies vont ensuite glisser ou concomitamment. Enfin, il faut m'aider, bonsoir. En ce qui concerne les températures maximales, Cabrol, articule !
Il s'engueule lui-même, on a franchi un nouveau cap dans la radio. Laurent Cabrol est désormais le plus grand professionnel de notre station.
C'est le symptôme du joueur de tennis, vous savez, qui s'insulte lui-même. Mais non, Mathieu, non !
C'est ça !
Vous connaissez ? Ben voilà, alors, Laurent Cabrol.
Ça, je connais, oui.
Mathieu Noël, l'équipe est sauvage de 16h à 18h de la culture. Aujourd'hui, ce sera littérature. Moi, je vais vous parler un peu de musique ce matin. De la
beau,
grande
ça.
Musique. Ça, c'était à la fin du journal de 8h hier matin. Mister Cumbia au Mexique, mais ce sont des paroles salutaires, si j'ose dire, sanitaires pour le moins, puisque les paroles c'est lavez-vous les mains, évitez de vous faire la bise, etc., etc. Et ça cartonne en Amérique latine, on l'a passé hier matin. Du coup, entre-temps, on a découvert autre chose. C'est de la V-pop, j'ai découvert, c'est comme la K-pop, mais c'est du Vietnam, écoutez. Lavons-nous les mains, frottons. Ne touche pas tes yeux, ton nez, ta bouche, évite les endroits où il y a de la foule. Tâche toujours d'améliorer ta santé, garde un environnement propre. Frottons, ça s'appelle Genco-Vie. Et c'est commandé par le ministère vietnamien de la Santé, justement. Ce sont des immenses stars au Vietnam qui se sont mobilisés contre le coronavirus.
Ah,
Moi, je préfère la version vietnamienne à la version mexicaine. Il faut faire son choix
c'est
à un
moderne,
moment.
Là.
Et il va falloir un moment que les Français se lancent aussi dans la chanson. Hein. Ça y est, on peut plus se laisser challenger comme ça par Mister Cumbia au Mexique ou Genko V du côté du Vietnam. Pourquoi pas une chanson française contre le coronavirus. C'est parti pour le programme de la demi-heure qui démarre de 7h à 7h30. Ils seront autour de la table. À 7h15, l'innovation à Nice Mbida.
Eh bien, nous, on va aller un peu plus loin que le gel hydroalcoolique et se poser la question. Et si c'était les objets eux-mêmes qui se désinfectaient tout seuls quand on a mis nos sales pattes dessus?
C'est peut-être plus efficace qu'une chanson.
Voir. C'est possible.
7h20, le monde bouge, Axel de Parler.
Moi, je vais vous parler des entreprises qui profitent du coronavirus. Vous savez qu'une banque américaine a créé un indice boursier qui regroupe les gagnants du coronavirus.
Et il y en a. Et
oui,
il y en a
33.
Netflix est dedans ou pas?
Oui, il y a Netflix dedans.
Oui, vous êtes confiné chez vous, vous faites quoi à la maison? Ben Netflix. L'édito sport 7h25, Virginie Fulpin.
Et si on mettait un peu de nuance dans nos jugements, la nouvelle mode, c'est de critiquer à tout va Kylian Mbappé, quoi qu'il fasse. Alors oui, bien sûr qu'on peut trouver des points négatifs, mais il faudrait peut-être pas tout jeter non plus.
Stop au Kylian Mbappé bashing, si j'ose dire. On va parler des JO et Kylian Mbappé dans le journal de 7h aussi avec Denis Masseglia, président du comité olympique français. Laurent Cabrol à 6h59 pour la météo.
Allez, la pluie est là, elle est arrivée par les côtes atlantiques. On l'attendait, ben elle est présente. Et la Bretagne, la Basse-Normandie, les Pays de la Loire qui sont déjà concernés pour la plupart, eh bien ces régions seront les premières débarrassées, donc en la matinée. Le Poitou-Charentes, tout le sud-ouest, le Limousin, la Haute-Normandie, le Berry seront des contrées rapidement touchées. Paris, je pense, en fin de matinée, début d'après-midi, vous aurez, mais c'est pas énorme, hein, il y aura quelques gouttes. Franche-Comté aussi. Non, Languedoc-Roussillon. La Franche-Comté plus tard, avec la Champagne-Ardenne, la Lorraine, la région Rhône-Alpes, l'Auvergne et le Languedoc-Roussillon, car là, dans cette contrée, il ne pleuvra que l'après-midi. En fait, vous avez compris, je cherche à déterminer à quelle vitesse la perturbation traverse la France. Bientôt, je vais m'insulter parce que je bafouille. Et donc, vous l'avez compris, pratiquement tout le monde sera concerné avec des températures de 10 à 15 degrés.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol, et bonjour Marion Calais.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, écoutez le monde changer.
Europe 1, il est 7h.
Pour l'instant, on m'a demandé de suspendre toute sortie à l'extérieur. Donc par exemple, pour les élections municipales, on devait emmener les résidents à aller voter. Bon, malheureusement, on a suspendu nos sorties. Jusqu'à nouvel ordre.
Mesures de précaution dans les établissements hébergeant des personnes âgées. Les seniors particulièrement vulnérables face au coronavirus.
Un risque d'épidémie que les assureurs désormais ne veulent plus couvrir pour l'organisation de grands événements. Information Europe 1.
Un duel qui se dessine aux États-Unis à l'issue du Super Tuesday. Joe Biden face à Bernie Sanders qui dès hier soir a chargé son adversaire.
You cannot beat Trump with the same old kind of politics.
On ne battra pas Donald Trump avec les mêmes vieilles recettes politiques.
Dans ce journal aussi, solidarité avec la Grèce, fermeté avec la Turquie et les migrants. Réunion aujourd'hui des ministres de l'Intérieur européens.
Et puis un rêve brisé, celui de Kylian Mbappé.
Le rêve, ce serait un triplé Ligue des Champions, Euro, Jeux Olympiques. C'est un rêve, donc voilà, pour moi ce sera ça.
Il voulait participer aux Jeux Olympiques et le PSG a dit non. Europe 1, 7h01. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Bellière, Marion Calais.
Elles sont les premières victimes du coronavirus. Les personnes âgées en France. Les 4 personnes ayant succombé à la maladie avaient entre 60 et 90 ans. Alors un peu partout dans l'Hexagone, les EHPAD et les maisons de retraite s'organisent.
Illustration à la résidence du Parc à Châtillon, près de Paris, où en attendant les consignes du ministère, des mesures strictes ont été mises en place. Le reportage de Virginie Salmen pour Europe 1.
Bonjour, on va vous faire signer le registre.
3 mesures barrières, du gel hydroalcoolique dès le sas d'entrée, signature d'un registre et prise de température sur le front.
J'ai pas 36,1, c'est bon.
Monsieur Prince, un résident, observe du coin de l'œil ces nouvelles mesures.
Ça m'a appris qu'on pouvait prendre la température sur le front alors que moi, je ne connaissais pas. Ça me paraît nécessaire.
Une autre résidente, Madame Bailly, avoue qu'avant le coronavirus, même en temps de grippe, elle ne se lavait presque jamais les mains.
Et donc maintenant, vous vous lavez les mains tous les combien?
Ah ben, j'ai pas compté. Ben, il faudrait quelqu'un comme une secrétaire qui me le note. Mais je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas me laver les mains, je peux penser au virus. Je ne peux pas. Le plus possible.
Des mesures barrières nécessaires, mais qui changent beaucoup le quotidien des personnes âgées, nous dit Karine Beaufils.
Moi, je suis animatrice et donc pour l'instant, on m'a demandé de suspendre toute sortie à l'extérieur. Donc par exemple, pour les élections municipales, on devait emmener les résidents à aller voter. Bon, malheureusement, on a suspendu nos sorties.
jusqu'à nouvel ordre.
Et les visites des enfants de moins de 18 ans qui peuvent être porteurs du virus sont désormais formellement interdites.
Voilà, déplacement suspendu donc, et notamment pour se rendre au bureau de vote, voilà, qui pose la question.
C'est problématique, ça.
Ah oui, complètement.
Ça pose question quand même, hein, de ne pas emmener ces personnes âgées qui sont résidents d'EHPAD, résidents, résidentes, voter pour les municipales. C'est une vraie problématique.
Ouais, face au virus, en tout cas, l'État réquisitionne les stocks et la production de masques pour les personnels soignants et les malades, des masques source de convoitise jusqu'au sein des hôpitaux avec des vols signalés à Paris et à Marseille.
Hier, les autorités ont annoncé l'identification d'un nouveau regroupement de cas après le rassemblement d'une importante église évangélique à Mulhouse, mi-février. 7 personnes contaminées, les autres participants sont appelés à contacter leur centre 15 en cas de symptômes.
Et face au risque que fait peser le coronavirus sur ces rassemblements, ces grands événements avec des annulations qui se sont multipliées ces derniers jours, les assureurs jouent la prudence en matière de remboursement. C'est une information Europe 1. Alors, pour les organisateurs, comment ça va se passer? Vont-ils pouvoir être indemnisés, Olivier Samin?
Alors, la réponse est oui, mais à une condition, avoir souscrit la garantie épidémie avant l'apparition du virus, c'est-à-dire avant la fin du mois de décembre, quand la première alerte a été lancée en Chine, dans la région de Wuhan. Si vous cherchez un assureur alors que votre maison a commencé à brûler, c'est trop tard. Vous n'en trouverez pas et vous ne serez pas indemnisé. Eh bien, c'est la même chose, disent les spécialistes que nous avons interrogés. Le risque annulation pour cause de progression du coronavirus a été assurable jusqu'à la fin de l'année dernière, dans le cadre de la garantie épidémie. Mais aujourd'hui, plus aucun assureur ne le couvre. L'aléa est trop fort. Alors nous avons appelé hier les organisateurs de plusieurs grands événements sportifs à venir d'ici l'été. Certains nous ont confirmé s'en être occupés à temps et seront indemnisés en cas d'annulation. D'autres seraient encore en train de négocier leur contrat, ce qui veut dire qu'ils ne seront pas couverts si la crise sanitaire est encore là au moment où l'événement est censé avoir lieu.
La prudence des assureurs face au coronavirus, et l'un d'entre eux s'en expliquera tout à l'heure dans le journal de 8h en direct sur Europe 1.
Et pour limiter les dégâts de l'épidémie sur l'économie, ces coups de pouce annoncés hier, plan d'urgence de 12 milliards de dollars pour la Banque mondiale, la Banque centrale américaine, elle baisse ses taux d'intérêt d'un demi-point.
Et c'est votre éclairage éco, Nicolas Barré, bonjour.
Bonjour Mathieu.
La Fed a sorti l'artillerie lourde.
Oui, et ça fait un peu panique d'ailleurs. Hein. Ça rappelle la crise des subprimes en 2008. La Réserve fédérale a pris tout le monde de court. Personne ne s'attendait à une telle baisse des taux d'intérêt. Le président de la Fed l'a justifié par le souci, je cite, de fournir un soutien significatif à l'économie. Manque de chance. Ça a eu pour effet d'inquiéter encore plus les investisseurs qui se disent que les autorités craignent le pire. Le but était d'éviter que la crise sanitaire ne se transforme en crise financière majeure. Le signal envoyé hier se voulait rassurant. Il a produit l'effet inverse.
Mais cette baisse des taux, elle était pourtant réclamée par Donald Trump.
Ah, tout à fait, oui. La pression sur la Banque centrale était maximale. D'ailleurs, juste après cette décision, Trump en a rajouté dans un tweet en réclamant une baisse des taux encore supérieure. On sait bien qu'on est en pleine campagne électorale. La chute de Wall Street depuis quelques jours frappe des dizaines de millions d'Américains au portefeuille, d'où la nervosité de la Maison-Blanche. Ce qui est inquiétant aussi, c'est que face à une menace sanitaire mondiale qui a des conséquences économiques majeures, les grands pays ne sont pas vraiment d'accord entre eux sur les réponses à apporter, ni au G7, ni d'ailleurs au sein de la zone euro. Certains veulent de la relance budgétaire, d'autres non. Le virus de la division est bien installé.
C'était l'éclairage de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Merci.
Et peu ont tenté jusqu'à présent une estimation de l'impact de l'économie. L'OCDE l'a fait, l'Organisation de coopération et de développement économique. Je reçois la chef économiste de l'OCDE à 7h40, Laurence Boone, sur Europe 1.
Il est 7h06.
C'est une étape importante dans la course à l'investiture démocrate pour la présidentielle américaine. Le Super Tuesday et le vote dans 14 États cette nuit.
Les résultats continuent de tomber et vous les suivez à New York pour Europe 1. Xavier Yvon, avec déjà un enseignement, Joe Biden crée la surprise.
Ah oui, ce Super Tuesday est vraiment super pour Joe Biden qui fait beaucoup mieux que prévu. Pour l'instant, il remporte 8 États sur 14, dont par exemple le Minnesota ou le Massachusetts, où il n'a même pas fait campagne. On assiste en fait à la résurrection de sa candidature, donnée pour morte il y a encore 5 jours. Sa victoire en Caroline du Sud samedi a précipité les ralliements autour de lui, notamment de 2 autres candidats centristes. Il y a eu un effet de domino et on est en train de vivre ce que les Américains surnomment déjà le Joe-mentum, le momentum de Joe. Mais attention, même si Bernie Sanders fait moins bien qu'espéré, il remporte quand même le plus gros morceau, la Californie. La conclusion donc de ce Super Tuesday, c'est que la primaire démocrate se réduit désormais à un duel entre Bernie Sanders, le socialiste, et Joe Biden, le centriste. Et on l'a bien compris d'ailleurs dans le discours cette nuit du sénateur du Vermont qui a lâché ses coups contre l'ancien vice-président.
You cannot beat Trump with the same old kind of politics.
On ne battra pas Trump avec les mêmes vieilles recettes politiques, a dit Bernie Sanders. Il faut un mouvement populaire comme le nôtre. Et il a énuméré les différences entre lui et Joe Biden sur la politique étrangère ou la politique sociale. Les couteaux sont tirés. Ce sera donc Bernie ou Joe face à Donald Trump en novembre.
Un match qui se resserre donc aux États-Unis. Xavier Yvon en direct de New York pour Europe 1.
Notre unité l'emportera, la promesse hier en Grèce de la présidente de la Commission européenne. Un déplacement pour marquer le soutien de Bruxelles alors que le pays fait face à l'afflux de milliers de migrants après que la Turquie a décidé de les laisser passer. Et ce sera d'ailleurs aujourd'hui une nouvelle marque de soutien avec cette réunion des ministres de l'Intérieur européen. Isabelle Horry, vous êtes à Bruxelles pour Europe 1. Soutien, oui, mais fermeté aussi hein, vis-à-vis de la Turquie et vis-à-vis des migrants.
Oui, l'objectif de la réunion, c'est de donner à la Grèce les moyens de défendre la frontière commune. Et au passage, il s'agit de montrer à la Turquie que la solidarité n'est pas que dans les mots ou les visites sur place, mais que l'Europe se mobilise pour réunir hommes et matériels très rapidement. Les mécanismes sont d'ailleurs déjà enclenchés. L'agence Frontex a évalué les besoins. Les capitales ont validé hier la mission d'intervention rapide. Navires, patrouilleurs, hélicoptères, avions et une centaine de gardes-frontières européens en plus. D'autres hommes et femmes déjà présents dans les îles grecques seront redéployés. Les États membres doivent obligatoirement répondre à l'appel sous 5 à 10 jours. Les premières contributions seront annoncées aujourd'hui. Nous voulons envoyer un message de fermeté pour décourager les gens de venir, explique une source européenne qui ajoute « Les ministres de l'Intérieur ne sont pas là pour faire de l'humanitaire ».
Précision à Bruxelles d'Isabelle Horry pour Europe 1. Europe 1.
Et votre journal qui se poursuit dans un tout petit instant avec une fin de non-recevoir. Le PSG ne laissera pas Kylian Mbappé participer aux JO cet été. Le président du comité olympique français est notre invité dans un instant.
Europe 1, il est 7h11. La suite du journal, Marion Calais, Mathieu Béliard.
Chacun veut sa part du gâteau. C'est un marché que s'arrachent les stars comme les grands groupes du luxe. D'ailleurs, celui des cosmétiques.
Et c'est le dossier de la rédaction ce matin avec vous, François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour.
Hermès lance même aujourd'hui sa première gamme de rouge à lèvres. Il y a tant d'argent à se faire que ça sur ce marché?
Oui, le gâteau grossit, chacun veut sa part. 5% de croissance annuelle depuis 3 ans et ça s'accélère encore. Alors, quand on s'appelle Lady Gaga ou Rihanna et qu'on a 40 ou 80 millions d'abonnés sur Instagram qui regardent et qui partagent toutes les vidéos que vous leur envoyez, la tentation est forte de se transformer en femme sandwich ou plutôt en coach beauté, comme ici, Rihanna en gros plan.
J'adore avoir un pinceau qui fait tout parce que je dois faire vite. Je suis toujours en train de courir d'un endroit à l'autre.
Alors le pinceau à joues utilisé, ce n'est pas n'importe lequel, c'est celui de sa marque, développé avec le groupe LVMH. Des stars françaises du web se sont lancées aussi, Sananas, Enjoy Phoenix et Nabila. Dans ce marché de la beauté, le maquillage est particulièrement en vogue, surtout le rouge à lèvres.
Le rouge à lèvres dans lequel se lance aussi la marque de maroquinerie, la marque de mode jusque-là, Hermès, donc vise aussi les cosmétiques, hein, François.
Oui, le plus cher du marché, 62 euros. À ce tarif-là, ce n'est pas juste un outil pour ses lèvres, mais bien un objet chic et ostentatoire. C'est assez malin, relève un fin connaisseur du secteur, car si on vous en offre un, vous serez ensuite tenté par la recharge à 38 euros. Patrick O'Quinn, qui préside la Fédération des cosmétiques, confirme que son secteur monte en gamme.
Les produits de luxe sont extrêmement demandés. En matière cosmétique, les prix élevés ne sont pas un frein pour la clientèle, notamment la clientèle étrangère. Le haut de gamme se développe plus vite que le niveau médium ou l'entrée de gamme. Les produits qui s'exportent le plus et le mieux sont les plus raffinés, on va dire.
Prochaine marque de luxe à s'y mettre, Prada, avec des produits qui sortiront en 2021 en association avec L'Oréal. La France est d'ailleurs leader mondial, près d'un quart des parts de marché. Et dans les cosmétiques, le Made in France est un argument qui permet de vendre 30% plus cher qu'un produit identique fabriqué ailleurs.
L'attrait du marché des cosmétiques, dossier signé François Geffrier pour Europe 1.
Il en rêvait. Kylian Mbappé, d'ailleurs, ne l'avait pas caché ces derniers mois. Il avait fait des Jeux Olympiques l'un de ses objectifs pour 2020.
Le rêve, ce serait un triplé Ligue des Champions, Euro, Jeux Olympiques. C'est un rêve, donc voilà, pour moi, ce sera ça.
Ouais, bah, sauf que c'est non, il n'ira pas au JO. Son club s'y oppose, le PSG l'a fait savoir hier. Bonjour Denis Vasseglia.
Bonjour.
Vous êtes le président du comité olympique français. Vous regrettez la décision du club?
Alors, est-ce qu'elle est définitive? Je ne le sais pas. Qu'est-ce qu'elle contient dans... Qu'est-ce que la lettre, plus exactement, que le PSG a adressée à la 3F contient? Je ne le sais pas non plus. Aujourd'hui, dans le contexte qui est celui du club, avec un huitième de finale retour dont on ne sait pas s'il va se disputer avec les spectateurs ou à huis clos, avec une qualification qui est forcément fondamentale pour l'avenir du club, je pense que le club a...
Oui, mais enfin, pardon, les JO, c'est dans 5-6 mois pour Kylian Mbappé, c'est pas pendant la Ligue des Champions. Vous dites que la décision n'est peut-être pas définitive. Soit, elle pourrait être encore pire, puisque certains affirment que le PSG refuserait les Jeux Olympiques à l'ensemble de ses joueurs. Plusieurs clubs pourraient prendre la même décision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Jeux Olympiques, c'est pas assez bien pour le monde du foot, Denis Masseglia?
Alors, la FIFA n'a pas classé la participation aux Jeux Olympiques comme étant une obligation pour les clubs. Donc à partir du moment où on leur a laissé la liberté de décider si cette participation devait être faite par eux ou pas, elle appartient donc au club. Alors après, si la règle doit changer, c'est évidemment dans le rapport entre la FIFA et le CIO que cela doit se faire. Moi, aujourd'hui, tout ce que je peux dire, c'est
mais
que...
Mais vous le souhaitez, par exemple, est-ce que vous souhaitez que ça puisse être contraignant pour les joueurs de foot comme ça l'est pour l'Euro ou la Coupe du Monde? Les joueurs de foot ne peuvent pas refuser.
Alors, est-ce que je le souhaite? Le CIO souhaite, lui, que tous les meilleurs participent. Donc, à partir de là, on peut espérer, évidemment, que les meilleurs joueurs de foot participent au tournoi olympique. Déjà, il y a une limitation dans l'âge. Et c'est assez logique qu'il y ait une limitation dans l'âge. Après, est-ce que
c'est les moins de 23 ans qui participent?
C'est les moins de 23 ans, oui.
Merci beaucoup, Denis Masseglia, d'avoir été avec nous ce matin, président du comité olympique français. Et on a donc compris, vous espérez donc que la décision du PSG ne soit pas définitive.
Et on va reparler de Kylian Mbappé avec Virginie Fulpin dans l'édito sport dans un instant. Merci Marion Calais, c'était le journal de 7h. Un nouveau journal à 7h30 avec Hélène Zélani, avec des étudiants en médecine qui viennent en aide au SAMU pour lutter contre le coronavirus.
L'innovation du jour sur Europe 1 avec Anissa Mbida.
Bonjour Anissa.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Une innovation ce matin pour lutter contre la propagation de cette épidémie du Covid-19. Les entreprises distribuent du gel hydroalcoolique et augmentent les cadences de nettoyage. Elles vont aussi pouvoir compter sur la technologie. Par exemple, des bornes tactiles et des poignées de porte auto-désinfectantes.
Oui, aujourd'hui on parle du coronavirus, mais il y a quelques semaines c'était la gastro, juste avant c'était la grippe, et leur point commun, c'est qu'ils se transmettent tous avec les mains. Donc je vous laisse imaginer ce qu'il peut y avoir sur la poignée de porte des toilettes ou sur l'écran d'un distributeur. En Angleterre, on a même retrouvé des traces d'excréments sur une borne de commande de fast-food. Eh bien, les Lyonnais de la société Comet viennent de mettre au point la première borne tactile antibactérienne. Ils utilisent des ions argent qui détruisent les microbes en permanence. Ça dure 5 ans et ça vise de transformer les écrans en distributeurs de germes.
Et pour les poignées de porte?
Là aussi, c'est une invention française. T'inquiète, Mathieu. Ça s'appelle la
Schoonhandle.
Et c'est assez malin. Ça ressemble à une poignée de porte ordinaire, mais dès qu'on la relâche, il y a une petite bague qui va glisser tout du long pour la nettoyer avec un désinfectant dont vous aurez plus besoin de vous contorsionner pour ouvrir avec le coude.
L'idéal, ce serait d'avoir la même chose sur les barres, dans les transports.
Oui, mais alors peut-être pas avec la bague qui monte et qui descend pour nettoyer. On réfléchit plutôt à un système qui désinfecte à la lumière. Là, ce sont des Chinois qui y travaillent, mais c'est encore pour l'instant à l'état de projet. En tout cas, une chose est sûre, avec les virus à répétition, il va y avoir de plus en plus d'équipements pour protéger les usagers, exactement comme avec la lutte anti-incendie. On est allé plus loin que l'extincteur, et on ira plus loin que le simple gel hydroalcoolique.
Anissa Mbida, avec des solutions dans cette lutte contre le coronavirus ce matin. Merci beaucoup.
Dans un instant, Axel de Tarlet nous parlera de ces entreprises qui profitent du coronavirus. Le monde bouge sur Europe 1.
L'édito sport de Virginie Fulpin avant le journal de 7h30. Soyez les bienvenus sur Europe 1 si vous nous rejoignez.
7h20, la matinale d'Europe 1. Mathieu Béliard.
Et Kylian Mbappé.
Now everybody know who I am. I'm Kylian. I just want to follow my dream.
On va parler de Kylian Mbappé. Stop au Kylian Mbappé bashing, nous dira Virginie Fulpin dans un tout petit instant dans l'édito sport. Bonjour Virginie.
Mais en français, bonjour.
Oui, en français, tant qu'à faire. Axel de Tarlet est avec nous, Le Monde bouge. Bonjour Axel.
Bonjour Mathieu.
Quels sont les gagnants du coronavirus? Là, vous allez faire grincer quelques dents, Axel. Une banque américaine a créé un indice boursier qui regroupe les entreprises qui profitent du virus.
Bah oui, dès qu'il se passe quelque chose sur Terre, de bon ou mauvais, les boursiers sont toujours à l'affût pour faire un bon coup de bourse.
Donc là, quelle est la situation? Eh bien, avec le coronavirus, partout dans le monde, des salariés, des étudiants sont incités à rester chez eux confinés. Et quand on est confiné chez soi, eh bien, il faut bien s'occuper. On prend de nouvelles habitudes. D'où l'idée de la société d'investissement américaine MKM Partners de créer un indice boursier qui regroupe ces entreprises qui vont profiter de ces confinements. Alors l'indice s'appelle le Stay at Home Index, donc l'indice Restez à la maison. Il compte 33 entreprises, c'est une sorte de CAC 40 des gagnants du coronavirus. Donc voici la liste des 33 élus. Alors qui retrouve-t-on dedans? C'est du bon sens. On retrouve... Voilà, boum.
Les vrais savent.
Netflix, effectivement, si on est chez soi, on va regarder des séries télé. Donc Netflix en bourse a gagné 8% avec ce coronavirus. On trouve également les jeux vidéo, le leader mondial, Activision Blizzard. On trouve des entreprises qui proposent des solutions de télétravail, téléconférence, voilà, comme Slack, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, plus 17% en un mois. Des entreprises qui proposent des consultations médicales à distance. Teladoc a gagné jusqu'à 20% du matériel de sport à domicile. Et puis évidemment, tout ce qui est service en ligne. Alors les achats, Amazon, les réseaux sociaux, Facebook, mais aussi la musique, les petites annonces, etc.
Oui, mais Axel, c'est vraiment parier sur de l'éphémère, ces entreprises. Elles vont retomber en bourse une fois le virus vaincu.
Pas tout à fait, parce que beaucoup proposent des abonnements. Une fois que vous êtes abonné à Netflix, vous restez abonné. Vous voyez, à chaque crise, on prend de nouvelles habitudes. Regardez. La grève a durablement popularisé la pratique du vélo. Et bien de la même façon, le coronavirus pourrait durablement ancrer la pratique de la visioconférence, du télétravail. Et écoutez, tant mieux, c'est une bonne chose. Ça veut dire plus de temps libre et moins de voyages inutiles avec à la clé moins de transport, moins de CO2.
On va essayer de voir le verre à moitié plein quand c'est possible. Et c'est possible avec Axel de Tarlet. Le monde bouge et on vous le raconte tous les matins sur Europe 1, 7h22.
L'édito sport et Virginie Fulpin sur Europe 1.
Lyon reçoit le Paris Saint-Germain ce soir en demi-finale de la Coupe de France. Kylian Mbappé sera a priori titulaire avec le PSG. Virginie, vous en avez un peu marre des critiques permanentes autour de l'attaquant parisien, quoi qu'il fasse.
Oui, le ras-le-bol du Mbappé bashing, c'est la nouvelle mode. Vous êtes à une soirée entre amis, la conversation arrive sur le foot, vous ne savez pas trop quoi dire. Allez-y, tapez sur Kylian Mbappé, ça marche à tous les coups. C'est tellement agréable de se payer une icône, en plus ça donne presque l'air subversif. Il a la grosse tête, il mouille pas le maillot, il se prend pour qui, il accepte même pas que son entraîneur le sorte du terrain. Et puis tout ce qu'il attend, c'est de partir au Real Madrid. On peut trouver plein d'exemples. Alors évidemment qu'on peut critiquer Kylian Mbappé, heureusement, ça lui arrive de rater des matchs, oui. Il y a des moments où il pourrait songer un peu à défendre sur le terrain, oui. Sa communication n'est pas forcément la plus habile, tout ça c'est vrai. Mais il a 21 ans, c'est un des meilleurs joueurs du monde, il gravit les échelons à vitesse grand V, il s'est imposé à Paris comme en bleu, il veut jouer en permanence, passionnément, et il arrive même à avoir un engagement citoyen à côté. Vous vous souvenez tout ce qu'on disait à propos de lui il y a quelques mois à peine? Tout ça, ça reste vrai aussi. Mais on dirait qu'on a oublié pour se concentrer uniquement sur ce qui nous agace chez lui. Je trouve ça assez symptomatique de notre époque, en fait. On a oublié les nuances. C'est tout bien ou tout mal. On met tout notre cœur à aller dans un sens avant de faire un demi-tour à notre opinion avec la même passion. Donc on pourrait peut-être boire un peu d'eau et se calmer, non ?
Et ça vous rappelle, Virginie, les relations entre Thierry Henry et le public français ?
Oui, je trouve qu'il y a beaucoup de points communs. Thierry Henry a beau être le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, il n'y a que les Anglais pour lui faire une statue. Nous, on a toujours préféré parler de son arrogance. Ah oui, l'arrogance, c'est aussi un mot qui revient souvent pour qualifier Kylian Mbappé. Alors, méga scoop, oui, il faut une certaine estime de soi pour devenir un des meilleurs footballeurs du monde. Sinon, si vous avez des doutes sur vos capacités à chaque fois que vous tirez au but, vous avez peu de chances d'avoir une réplique de la Coupe du Monde dans votre placard. Et puis ce qui me gêne peut-être encore plus, c'est que Kylian Mbappé, comme Thierry Henry, s'exprime bien. Et ce qui est fou, c'est que ça leur est reproché. Oh là là, ils s'écoutent parler, ceux-là, ils n'aiment qu'eux-mêmes. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? En gros, un bon footballeur ne devrait pas faire de phrases construites parce que ça ne va pas ensemble. Donc merci, non, ce genre de cliché, j'aimerais bien qu'on l'évite. Un petit peu de nuance dans notre jugement, ce serait tellement bien. Ça vaut pour Kylian Mbappé, puis peut-être aussi pour le reste.
Évidemment. Tiens, un peu de musique ce matin. Je reprends ce que vous disiez tout à l'heure. On pourrait boire un peu d'eau et se calmer. Ça fera du bien à tout le monde. Et ce que vous entendez, c'est Lieutenant Nicholson et Jojoa, un duo français. L'un des deux est le fils de Laurent Voulzy, Lieutenant Nicholson. Il a fait cette chanson sur Kylian Mbappé, il nous en avait parlé.
Y'en a qu'un qui tient la basse comme ça. Y'en a qu'un qui.
Ils étaient mes invités inattendus un jour de match. À l'époque, on disait que du bien de Kylian Mbappé. Virginie Fulpin, l'édito sport, a partagé, commenté sur le hashtag Europe 1, évidemment. Il est 7h25. Bon réveil à toutes et à tous. Vous restez bien avec nous. Comment répondre? Répondre à la crise du coronavirus d'un point de vue économique. Réunion des financiers du G7 hier, de l'Eurogroupe aujourd'hui. Annonce surprise des États-Unis avec la Fed qui baisse ses taux. Comment répondre à cette menace de ralentissement de la croissance, pour ne pas parler de récession. Nous serons avec la chef économiste de l'OCDE, Laurence Boone, à 7h40 en direct sur Europe 1, juste après le journal.
7h28, la matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
Et à 7h50 tout à l'heure, Périscope, la culture sur Europe 1, comme tous les matins, avec Jean-Philippe Ballas, bonjour.
Bonjour, et c'est un peu le chant d'une sirène. Sur une musique de Yann Tiersen, la voix de Patricia Petitbon, la chanteuse soprano, avec un nouvel album, L'amour, la mort, la mer, c'est le titre. Alors je vous dis à tout à l'heure, les Moussaillons.
À tout à l'heure, juste après le journal et mon invité, ce sera à 7h50, Jean-Philippe Ballas évidemment. Il est déjà 7h29 et Laurent Cabrol est avec nous pour la météo.
Alors l'idée générale, c'est que nous allons vivre une journée de pluie avec des vents raisonnables, j'allais dire entre 50, 60, 70 km/h, pas plus. Maintenant, je me lance dans un découpage pour savoir à quel moment la pluie va arriver chez vous. Alors soyez indulgents parce que c'est pas facile. Bretagne, Basse-Normandie, Pays de la Loire, la pluie est là en général. Elle est plus ou moins touchée. Ces trois régions sont plus ou moins touchées. Vous en serez débarrassés les premiers, donc dans la matinée. Dans la matinée, il continuera de pleuvoir sur le Poitou-Charentes, sur tout le sud-ouest où il pleut déjà, et sur le Limousin. Fin de matinée, la pluie devrait arriver sur la Haute-Normandie, la Picardie, la région parisienne, le Berry, l'Auvergne et le Languedoc-Roussillon. Et dans l'après-midi, sur le Nord, la Lorraine, le Morvan, la Champagne et les Ardennes. Et un peu à l'écart, la région lyonnaise, la Provence, la Côte d'Azur et la Corse. Voilà ce que je vous propose, chers amis, avec une fois encore l'indulgence que vous allez m'accorder, parce que c'est pas simple. En ce qui concerne les températures, là, c'est plus tranquille. 8 degrés à Sedan, 9 à Dijon, 10 degrés à Paris et Colmar, 11 à Lyon cet après-midi, 12 à Cognac, 13 à Saintes, 14 à Marseille, à Toulouse, à Bordeaux, à Rennes, 15 à Nice et 17 degrés à Bastia.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol. Et bonjour, Hélène Zélani.
Bonjour, Mathieu. Bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe 1, il est 7h30.
Présenter des symptômes et de la fièvre, donc bon, c'est un tableau qui peut peut-être donc suspecter le cas du coronavirus. Je vais entrer en contact avec un médecin et je vous reprends juste après pour vous dire ce qu'on va faire, d'accord ?
Des étudiants en médecine en renfort au standard d'un SAMU débordé. C'est la solution trouvée à Lille où nous serons dans un tout petit instant.
Emmanuel Macron à la tête d'un nouveau conseil de défense. Tout à l'heure à l'Élysée, le chef de l'État qui face au coronavirus change de stratégie politique.
Privilège pour Greta Thunberg. Elle assiste aujourd'hui à la réunion de la Commission européenne à Bruxelles à l'occasion de la présentation de la loi climat.
Et puis les fans de Polar l'attendaient avec impatience. Le dernier roman de John Grisham, La Sentence, sort aujourd'hui. Mais promis, on ne vous racontera pas la fin.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Je tousse, j'éternue, j'ai de la fièvre. Au moindre symptôme, vous êtes nombreux et nombreuses à appeler le SAMU qui n'arrive plus à gérer.
Alors pour soulager celui de Beauvais dans l'Oise, département le plus touché, les SAMU de Lille et d'Amiens récupèrent désormais les appels. Lille où le standard explose aussi. La solution, demander l'aide d'étudiants en médecine et d'internes. Écoutez le reportage de Lionel Gougelot.
Le SAMU, bonjour.
Choukri a été l'un des premiers à se porter volontaire pour renforcer le centre de régulation du SAMU du Nord.
Alors dites-moi, vous avez de la fièvre, vous faites combien de fièvre ?
Micro-casque sur les oreilles, l'étudiant en deuxième année de médecine déroule un questionnaire précis avec des critères qui permettent de distinguer un cas potentiel de coronavirus.
Vous présentez des symptômes et de la fièvre, donc bon, c'est un tableau qui peut peut-être donc suspecter le cas du coronavirus. Ce que je vais faire, c'est juste, je vais entrer en contact avec un médecin et je vous reprends juste après pour vous dire ce qu'on va faire, d'accord ?
Près de 3 fois plus d'appels au standard depuis le week-end dernier, dont la moitié de gens qui s'inquiètent pour rien ou qui prennent le 15 pour un centre de renseignement.
Je comprends totalement. Hein. Je veux dire, les gens, ils savent pas forcément. Puis, ils regardent forcément la télé, ce qu'ils racontent. Bon, parfois, ça induit une peur chez les gens. Donc voilà, notre but, c'est surtout de les rassurer. Et si on suspecte un cas, on le transfère à un médecin.
Une 60aine d'étudiants sont déjà sur le pied de guerre au SAMU que dirige le docteur Goldstein.
Alors là, j'ai été étonné. Hein. Ils faisaient quasi la queue à l'entrée du service. Ils ont été formés 24/24 par notre encadrement, y compris pendant cette nuit. Et aujourd'hui, on a largement ce qu'il nous faut pour pouvoir répondre.
Et le dispositif devrait monter en puissance pour traiter les appels venant de toute la région Hauts-de-France. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et pour éviter d'encombrer le 15, n'appelez que si vous venez d'une zone à risque et que vous souffrez d'importants problèmes respiratoires.
Hier, le bilan est monté à 212 cas, 4 décès. L'État a décidé de réquisitionner tous les stocks et la production de masques pour les distribuer au personnel soignant et aux personnes atteintes du virus. Le décret est d'ailleurs paru tout à l'heure au journal officiel.
Au sommet de l'État, la mobilisation s'amplifie. Emmanuel Macron réunit ce matin un conseil de défense à l'Élysée.
La bataille contre le coronavirus est aussi une bataille politique. C'est votre fait politique du jour, Michaël Darmon. Elle fait muter la stratégie présidentielle.
Et oui, ce que je peux vous dire, c'est qu'Emmanuel Macron vient d'inventer un nouveau domaine réservé, le régalien sanitaire, comme la défense et comme en temps de guerre, avec des points toutes les heures et des courses contre la montre. Hier, par exemple, l'intention de l'Allemagne de placer d'ores et déjà la France en phase 3. Emmanuel Macron a choisi son chef d'état-major. C'est le directeur général de la santé, Jérôme Salomon. C'est lui qui informe les Français. Il est le métronome de la crise, dit Macron, qui suit également avec intérêt les premiers pas d'Olivier Véran au ministère de la Santé. L'arrivée en trombe au gouvernement d'Olivier Véran est suivie avec cette boutade. Il est comme un reporter nommé à New York le jour du 11 septembre, dit-on dans le bureau présidentiel. Plus que jamais, Emmanuel Macron martèle son mot fétiche, il faut être efficace.
Et parce qu'il s'agit effectivement de faire évoluer l'image d'un président mal perçu par les Français.
Et oui, ça peut muter, ça peut changer, pense le chef de l'État. La déroute annoncée de La République En Marche au municipal, les états d'âme de la majorité suite au 49-3 sur la réforme des retraites, ça n'est pas son affaire, comme il a pu le dire. Hein. Emmanuel Macron laisse désormais ses dossiers à Édouard Philippe, avec une blouse blanche comme uniforme. Il veut renouer avec les Français qui le perçoivent toujours comme distant, en première ligne pour combattre le virus. Le président espère recréer du consensus.
Merci Mickaël Darmon. La politique, c'est aussi le rejet des deux motions de censure. La nuit dernière à l'Assemblée, en clair, le projet de réforme des retraites est adopté en première lecture. Il part maintenant au Sénat où il sera examiné en avril avant de revenir à l'Assemblée. Le gouvernement espère une adoption définitive avant cet été.
Europe 1, il est 7h34.
Joe Biden, le revenant, c'est ce que l'on retient du Super Tuesday, le vote pour la primaire démocrate dans 14 États américains.
Tous les résultats ne sont pas encore tombés, mais l'ex-vice-président de Barack Obama devance son rival Bernie Sanders dans 8 États. On attend encore le Texas et la Californie notamment.
Ce sera l'une des images du jour. Greta Thunberg à Bruxelles. Honneur très rare, la jeune activiste va participer à la réunion hebdomadaire de la Commission européenne.
Oui, à l'occasion de la présentation de la loi climat qui grave dans le marbre les objectifs climatiques de l'Union. Un texte décevant pour Marie Toussaint, eurodéputée écologiste, mais elle espère que la jeune Greta va secouer un peu les dirigeants européens.
La loi climat qui nous est présentée inscrit dans la loi le fait qu'on veut atteindre la neutralité carbone en 2050. Mais ce n'est pas encore une loi qui est à la hauteur des enjeux puisque le GIEC lui-même nous dit que c'est dans les 10 années qui viennent qu'on doit complètement transformer notre modèle de société. Or, il n'y a rien ou si peu vers les objectifs 2030 au sein de cette loi climat. Donc on espère que la présence de Greta permettra de pousser la Commission à agir plus et à agir plus vite. Certains peuvent utiliser sa présence comme un faire-valoir pour dire nous recevons Greta Thunberg, mais de ne rien faire derrière, ce n'est pas suffisant. Et je crois d'ailleurs que Greta Thunberg ne se satisfait pas des paroles qui ne sont pas suivies d'action.
Marie Toussaint, eurodéputée écologiste au micro européen d'Isabelle Horry. L'Union qui s'inquiète de la situation à la frontière entre la Grèce et la Turquie où des dizaines de milliers de migrants tentent de passer. Elle a promis hier à la Grèce une aide de 700 millions d'euros, dont la moitié immédiatement, cela pour gérer cette nouvelle vague migratoire.
Avis aux fans de romans policiers. Le dernier John Grisham sort aujourd'hui.
L'auteur de La Firme ou de l'affaire Pélican revient en librairie avec La Sentence, un livre que Nicolas Caro a lu pour nous. Il nous raconte presque tout.
Pete Banning est un héros de guerre. On l'avait cru mort, mais non, il est revenu. Nous sommes en 1946 dans l'état du Mississippi, dans le sud des États-Unis. Pete a donc retrouvé ses deux enfants, sa grande plantation de coton et sa femme. Mais à la première page du roman, il n'arrive pas à se rendormir. Une idée l'obsède. Il attend les premières lueurs du jour et puis il se décide, il se lève en se disant « il est temps de tuer ». Il boit un café, fume une cigarette et prend son Colt 45. Il se rend dans la petite ville de Clinton, juste à côté. Il entre dans l'église et tire 3 balles dans le corps de son ami, le révérend Dexter Bell. Il sort très calmement, il croise l'homme à tout faire du presbytère et lui ordonne d'aller chercher le shérif. Pete est arrêté, placé en détention. Son avocat et ami arrive. Il lui demande pourquoi il a fait ça. Réponse de Pete, je n'ai rien à dire. Que veux-tu plaider ? Non coupable. Et voilà, une vraie bonne entrée en matière à la Grisham. Il nous reste 500 pages pour savoir pourquoi Pete Banning a tué le révérend et quelle sera la sentence.
La sentence de John Grisham, sortie aujourd'hui chez Jean-Claude Lattès avec Europe 1.
Merci beaucoup Hélène Zélani, c'était le journal de 7h30 à 8h. Sonia Mabrouk tout à l'heure pour le journal bien sûr, à 8h15 Sonia qui reçoit Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste français, député du Nord. Il est 7h37.
La matinale d'Europe 1 avec Mathieu Bélière et votre invité dans un instant.
Dans un instant, dans quelques secondes, Laurence Boone, chef économiste à l'OCDE. Quel impact cette crise du coronavirus sur l'économie mondiale ? Est-ce que le geste de la Fed aux États-Unis ne trahit pas une inquiétude ? Nous allons parler de la situation dans un instant.
Europe 1, il est 7h39. Votre invité, Mathieu Béliard, et Laurence Boone, chef économiste à l'OCDE.
Bonjour Laurence Boone.
Bonjour Mathieu.
Merci d'être en direct avec nous. Chef économiste à l'OCDE, 36 pays développés rassemblés dans cette organisation, l'Organisation de coopération et de développement économique. Alors, je voudrais qu'on évoque plusieurs points autour de cette situation, de cette crise du coronavirus. Et puis, j'aurais une question aussi sur votre ancien poste, puisque vous avez été conseillère économique de François Hollande à l'Élysée. Vous y aviez succédé à un certain Emmanuel Macron. Mais d'abord, la Fed aux États-Unis qui décide hier d'abaisser son taux directeur, donc d'abaisser les taux d'intérêt, de réinjecter du cash dans la machine, dans l'économie. On a vu la conséquence sur les cours boursiers, ça n'a rien arrangé dans la journée. Laurence Boone, est-ce qu'on n'a pas trahi tout simplement une vive inquiétude ?
Alors, je pense qu'effectivement, il y a de l'inquiétude parce que, comme vous savez, il y a beaucoup d'incertitudes sur l'évolution du virus et sur les mesures de confinement qui vont avec. Mais ce qu'on sait, c'est que les mesures de confinement qui vont avec, comme arrêter certains vols, donc de tout ce qui a trait au tourisme, au voyage d'affaires, au loisir, ça a un impact sur l'économie. Et la semaine dernière, les marchés se sont beaucoup inquiétés. Donc, les banques centrales émettent des communiqués. Et elles disent « on est prêt à agir ». Et une des façons d'agir, c'est bien sûr de baisser les taux d'intérêt pour être sûr que toutes les personnes, entreprises ou États qui ont un emprunt ne se retrouvent pas face à des difficultés pour payer les intérêts sur ces emprunts.
La Fed n'avait pas agi de la sorte par surprise depuis la crise de 2008. Je vous posais la question par rapport à la réaction des marchés. Ça donne une impression de panique, c'est ça ?
Mais comme c'est quelque chose qui affecte tout le monde, je pense que ce que les marchés attendaient, c'était plutôt un mouvement coordonné, un petit peu comme ce qu'on avait vu deux jours avant, où les quatre banques centrales les plus importantes du monde ont toutes les quatre émis des communiqués. Là, qu'elles agissent toutes seules, effectivement, les marchés se disent, mais si elle agit tout seule et si elle agit très vite, est-ce que ça veut dire que le gouvernement, lui, ne sait pas agir ? Et c'est ça qui fait peur.
Alors, réunion des financiers du G7 hier, de l'Eurogroupe aujourd'hui, vous parliez de réponses coordonnées, on va voir ce qu'on dit au niveau européen, Laurence Boone. Sauf que nous, à la différence des Américains, nos taux d'intérêt sont déjà extrêmement bas, on n'a plus forcément cette marge de manœuvre, ce levier-là.
Mais ça, c'est quelque chose de très important ce que vous dites, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, d'abord, c'est pas une crise financière, c'est plutôt un choc économique s'il devait se matérialiser. Et donc, c'est pas forcément une réponse des banques centrales dont on a besoin, à part le signal rassurant dont on parlait, mais c'est d'action de la part des gouvernements. C'est par exemple s'assurer que les entreprises ne vont pas avoir de problèmes de trésorerie pendant qu'elles traversent cette phase difficile. On peut penser aux entreprises de tourisme. C'est s'assurer que les personnes qui sont dans ces entreprises ne vont pas non plus avoir de problèmes de chômage ou de revenus et qu'elles vont pouvoir continuer à traverser cette période où on aura des mesures de confinement. Donc oui, c'est quelque chose pour les gouvernements plus que pour les banques centrales.
J'allais précisément vous poser la question, si vous étiez encore à l'Élysée à conseiller le président de la République, que preneriez-vous, Laurence Boone, vous demanderiez justement à l'État d'intervenir, de dépenser, il faut bien comprendre.
Oui, parce qu'on a, vous avez raison, on a affaire à un choc temporaire, mais qui peut être important sur certains secteurs. On a parlé du tourisme et des voyages d'affaires, mais si on demande aux gens de ne pas se rassembler, eh bien, il y aura un impact sur les restaurants ou sur les cinémas. Il y a aussi un impact sur la chaîne de production mondiale, d'ordinateurs, de produits pharmaceutiques, etc. Donc, on peut faire quatre choses. La première, c'est s'assurer que les personnels de santé vont être bien rémunérés pendant cette période. Il y a des pays, par exemple, qui baissent les impôts sur les heures supplémentaires du personnel de santé. La deuxième chose, c'est s'assurer que les entreprises ont assez de trésorerie et de liquidité qu'elles vont pas avoir des problèmes de cash flow. Et donc, pour ça, l'État peut suspendre, repousser des paiements de charges et d'impôts parce qu'il faut que les entreprises continuent de fonctionner et il faut que les entreprises puissent garder les personnes en emploi. Et là aussi, on sait, depuis la crise financière, qu'il y a des moyens de faire ça. Par exemple, l'Allemagne, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle réduisait les heures travaillées de ses employés, mais elle les gardait comme employés, de façon à ce que, quand ça repart, elle puisse tout de suite remettre la machine en marche. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire.
Dans Le Parisien, aujourd'hui en France, ce matin, on peut lire cette enquête menée par la CPME, les petites et moyennes entreprises. Sondage, enquête menée sur des petits patrons. Êtes-vous inquiet pour l'activité de votre entreprise ? Oui à 59%. Avez-vous observé une baisse de chiffre d'affaires ces dernières semaines ? Oui à 53%. Attendez-vous des mesures de soutien ? Oui à 66%. Ces mesures de soutien qui pourraient coûter au budget des États, et on va parler du budget de la France, est-ce que ça veut dire, Laurence Boone, que du côté de l'OCDE, vous prenez au moins un assouplissement de la règle des 3% de déficit ?
Oui, vous avez raison. Je pense que à cette époque, avec les risques économiques qu'on a, qui sont dus aux mesures de confinement, il faut comme c'est a priori un choc temporaire, il faut vraiment aider les personnes et les entreprises à traverser ce choc. Évidemment, si on repousse les paiements d'impôts, si on en supprime, si on fait des dépenses pour maintenir les personnes en emploi, ça a un impact sur les finances publiques. Et cet impact sur les finances publiques, il faut absolument l'accommoder pour que, à nouveau, on soit d'abord pour freiner le choc économique et puis pour qu'ensuite on puisse repartir le plus vite possible. C'est pour ça que cette réunion de l'Eurogroupe que vous mentionnez tout à l'heure, donc les ministres des Finances de la zone euro, elle est très importante puisqu'ils discutent de leurs finances publiques ensemble et ça serait formidable s'ils se mettaient d'accord sur le fait qu'ils vont, pour des mesures ciblées, effectivement assouplir les règles avec qui nous gouvernent.
Je souligne les mots que vous utilisez, vous parlez de mesures ciblées. L'OCDE, vous êtes les seuls à avoir donné des estimations de l'impact sur la croissance mondiale qui pourrait être amputée de 0,5 à 1,5 de croissance au niveau mondial. Vous êtes les seuls parce que c'est difficile à estimer. Alors d'abord, sur quoi est-ce que vous vous basez? Et plus précisément, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la France?
Oui, alors ça correspond d'abord à notre calendrier où régulièrement en mars, on met à jour nos prévisions. On a un petit peu avancé, c'est sûr, parce que il y a beaucoup d'incertitudes, comme vous savez, et la raison pour laquelle on donne cet intervalle que vous avez évoqué de 0,5 à 1,5, c'est qu'on a fait deux scénarios. On en a fait un où la propagation du virus et donc les mesures de confinement qui vont avec s'arrêtent à peu près comme c'est aujourd'hui, ça se dégrade pas. Et un autre où le virus continue de se propager et on a des mesures de confinement qui sont à peu près du même ordre que ce qu'on a vu en Chine. Comme ça, ça vous donne un intervalle et ça permet au gouvernement de se dire dans cet intervalle, je vais pouvoir faire des mesures tout de suite parce qu'il nous paraît important d'agir très très vite. Pour pouvoir freiner justement l'effet de...
Mais par rapport à ce que disait Bruno Le Maire hier, qui était un petit peu flou, pas d'estimation chiffrée précise pour la France, Laurence Boone.
C'est assez compliqué. Nous, on a de la chance d'avoir des outils qui permettent de tout reboucler sur le monde, de vérifier ce qui se passe sur les échanges commerciaux, sur les chaînes de production. Et c'est vrai que c'était prévu. On l'a un peu avancé, mais c'était prévu à ce moment-là.
Un dernier mot, Laurence Boone. Je rappelle que vous êtes chef économiste à l'OCDE. La chute des indices boursiers, la réaction comme ça surprenante de la Fed, de la Banque centrale aux États-Unis, l'intervention peut-être à venir, en tout cas pour certains, ça a déjà commencé, des États. Il y a comme un parfum de 2008 là, non ?
Oui et non. Oui, parce que c'est bien sûr un choc qui potentiellement est important. Non, parce que ce n'est pas une crise financière, c'est d'abord une crise économique. Je vais juste, si ça a commencé en Chine. La Chine, son rôle a triplé dans l'économie mondiale. Elle représente aujourd'hui, elle contribue à un tiers de la croissance mondiale. Si vous prenez la production des ordinateurs et matériel électronique, elle assure 27% de la production mondiale. Je vous donne juste un dernier chiffre pour qu'on mesure l'ampleur. Les États-Unis, quand ils produisent des ordinateurs, le quart des composantes qui rentrent dans ces ordinateurs vient de la Chine. Donc vous voyez que ce choc, il est quand même très important, mais c'est un choc de production, puis après de demande, parce que les gens ont peur, et c'est bien normal, mais ça n'est pas un choc d'origine financière.
Laurence Boone, chef économiste de l'OCDE, merci beaucoup d'avoir répondu avec autant de clarté à nos questions ce matin en direct sur Europe 1, parce qu'on a besoin de savoir, de comprendre la situation telle qu'elle est à l'international. On va suivre ces réunions, justement l'Eurogroupe aujourd'hui. Laurence Boone, chef économiste de l'OCDE, en direct sur Europe 1 ce matin. Il est 7h48.
L'amour, la mort, la mer, le nouvel album de Patricia Petitbon, la chanteuse soprano avec Jean-Philippe Ballas dans
Périscope. J'ai cru que c'était l'opinion de Nicolas Bétou, ça c'est juste avant 8h.
7h50, la matinale d'Europe 1, vous écoutez Mathieu Béliard.
Ils sont là, tous les deux, Nicolas Bétou, l'opinion de Nicolas Bétou dans un instant, bonjour.
Bonjour Mathieu.
On va parler du droit de retraite de certains employés dans le cadre évidemment de cette lutte, de cette crise du coronavirus, c'est dans un tout petit instant. Mais d'abord, Périscope, la culture à 360 degrés avec vous Jean-Philippe Ballas, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et ce matin, la voix d'une soprano. C'est le retour de Patricia Petitbon avec un nouvel album, L'amour, la mort, la mer.
Ouais, et on sentirait presque l'écume, les embruns dans cette traversée, avec un équipage, des compositeurs en l'occurrence aussi divers que Yann Tiersen, Eric Satie, Gabriel Fauré ou encore John Lennon. Le lien, c'est la voix de la capitaine Patricia Petitbon et on embarque. Bonjour Patricia Petitbon.
Bonjour.
Vous êtes consciente de l'effet que votre voix fait sur les gens ?
Non, ça je ne peux pas, non, ça c'est pas une chose, je ne sais pas d'ailleurs quel effet ça peut produire, mais je sais que si je chante, c'est surtout pour transmettre. C'est plutôt l'histoire de se laisser traverser et d'être à une place, je dirais, avec beaucoup d'humilité, parce que c'est aussi l'acceptation des forces et des faiblesses de chanter que d'être sur scène.
Il me faut retourner aux anciens.
Alors justement, quand vous êtes sur scène, vous les voyez parfois les visages des
gens
dans
tout.
La salle. Alors,
je sens tout, je vois tout. C'est terrible. Bah, c'est terrible parce que je peux sentir aussi le mal-être du monde. Je peux sentir le bonheur aussi des gens. Quand vous avez 1200 personnes dans une salle, c'est quand même 1200 cœurs qui battent. Oui, c'est comme un être vivant, quoi. Chaque soir, c'est différent. Les ambiances sont différentes.
Il rentrait le soir de la mer en présent.
J'ai entendu dire qu'il y avait un conservatoire qui portait votre nom, c'est vrai ?
Oui, oui, tout récemment, au mois de janvier, qui a été baptisé.
Il est où ce conservatoire ?
Il est à Montargis, dans le Loiret, parce que c'est là où j'ai commencé à l'âge de 4 ans. Moi, j'ai rien demandé, vous savez. C'est arrivé là et je trouve que c'est très émouvant parce que d'abord, je peux dire merci de mon vivant.
Oui, c'est ça. Non, mais
c'est ça.
C'est tout bête, mais c'est rare d'avoir un bâtiment à son nom, de
oui,
son vivant.
Oui, que je peux aussi rencontrer des jeunes, que je peux aider peut-être aussi. Je suis une enfant du pays, on va dire. Mais c'est là que j'ai commencé à mettre mes doigts sur un piano, à faire de la musique.
Et vous sentez entre hier et aujourd'hui que votre voix, elle a changé, elle a évolué ?
Oui, elle a énormément changé, elle change toujours, elle change. C'est une exploration progressive, lente, un peu tectonique, voyez, comme les plaques, comme les continents. Il y a des failles qui arrivent, il y a des abysses aussi que je n'avais pas visitées. Et c'est extrêmement émouvant aussi de se reconnaître et de savoir qui l'on est au fond de soi.
Merci beaucoup, Patricia Petitbon.
Merci à vous.
L'amour, la mort, la mer, le nouvel album de la soprano Patricia Petitbon avec Suzanne Manoff au piano et c'est chez Sony.
Et Périscope, la culture à 360 degrés, c'est tous les matins avec Jean-Philippe Ballas à 7h50.
7h54, l'opinion de Nicolas Bétou sur Europe 1.
Après les employés du musée du Louvre, des chauffeurs de bus, des enseignants du Val d'Oise, Nicolas, le droit de retrait face au coronavirus s'étend.
Le droit de retrait tel qu'il est prévu par le Code du travail permet à un salarié de se retirer, de cesser de travailler s'il a, je cite, un motif raisonnable de penser qu'il court un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Bon, c'est un article qui est rédigé en des termes assez généraux, qui va donc ouvrir de vastes possibilités d'interprétation. Par exemple, dire qu'il faut un motif raisonnable de penser, bon, bah, c'est très vague.
Mais il n'y a pas plus d'encadrement que ça ?
Non, non, il faut juste au préalable avoir fait une alerte. Dans son principe, bon, aucun doute, le droit de retrait se justifie pleinement. Les accidents du travail qui ont nettement diminué depuis des années ont longtemps été un sujet grave dans les entreprises. Mais le problème, dans le cadre de l'épidémie de coronavirus, c'est l'évaluation qui peut être faite de ce fameux danger grave et imminent. Au musée du Louvre, par exemple.
Mais qui est fermé depuis 3 jours.
Voilà, à la suite d'un vote des employés, eh bien, leur crainte, c'est qu'ils reçoivent 30 000 visiteurs par jour, soit beaucoup plus que les 5 000 qui sont la limite haute fixée par le gouvernement pour interdire les rassemblements. Sauf que la règle édictée par les pouvoirs publics, c'est 5 000 personnes à la fois en un même lieu clos, dans un espace confiné. Pas vraiment le Louvre, ni un autobus, bien sûr. D'ailleurs, le gouvernement n'a pas pour l'instant ordonné la fermeture de ce type d'établissement. S'il y avait eu un danger grave et imminent, on peut imaginer que le principe de précaution aurait joué.
Et que peut faire l'employeur dans ces cas ?
Eh bien, rien, dans l'immédiat, rien du tout. Le salarié qui se retire ne peut pas être sanctionné et il doit même être payé. Les choses se régleront ensuite au prud'homme. Bon, on voit bien le risque de dérive que ça peut représenter. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des cas d'exposition dangereuse, proche, prolongée au virus Covid-19. Et dans ce cas, si l'employeur n'a pas anticipé la fermeture du lieu, eh bien le droit de retrait est une véritable protection. Mais il y a sûrement aussi des arrière-pensées, des motifs cachés, des abus, des hypochondriaques du droit de retrait. Et cela porte une responsabilité particulière, celle de provoquer une autre contagion.
Une autre contagion, c'est-à-dire ?
Une multiplication des arrêts de travail. Ce qui menace, bien sûr, c'est l'épidémie elle-même, mais c'est aussi l'éventuelle mise à l'arrêt de la société et de toute l'économie. Les transports en commun, les lieux de travail où des dizaines, des centaines de salariés se croisent, les cantines, les espaces de coworking tellement à la mode. À ce compte-là, tout peut s'arrêter. Bon, vérification faite auprès des organisations patronales. Il y a pour l'heure très peu de cas remontés du terrain, et heureusement, parce que le civisme, c'est ça aussi, ne pas profiter d'une situation générale de crise pour en tirer un avantage particulier.
L'opinion de Nicolas Bétou, tous les matins sur Europe 1, juste avant le journal de 8h. Merci beaucoup Nicolas.
La météo et le retour de Laurent Cabrol dans un instant, le journal présenté par Sonia Mabrouk.
Et avec Sonia, cette information Europe 1, les assurances ne couvrent plus les organisateurs d'événements contre le coronavirus. Des événements sont-ils menacés? On va en parler dans le journal de 8h. Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Une zone de pluie traverse la France, nous serons touchés tour à tour. Pour l'instant, c'est l'Atlantique, pour la région parisienne, probablement à la mi-journée, en début d'après-midi, comme le Berry ou la Picardie et l'Auvergne. Les températures aujourd'hui entre 10 et 15 degrés. Demain, jeudi, nouvelle pluie, perturbation beaucoup plus musclée, avec des pluies un peu plus abondantes par définition. Vendredi, de fortes averses et encore après du vent. Et ma foi, ça sera pas folichon. Samedi, un petit peu plus clément. Dimanche, pas terrible. Et la semaine prochaine, pas terrible. On n'a pas encore sorti du bout du tunnel.
Merci Laurent Cabrol et bonjour Sonia Mabrouk.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
8h, 8h30, on est ensemble pour une demi-heure d'infos.
On a dû produire à peu près 2,5 millions de masques en février. Aujourd'hui, on est passé à 6,5 millions.
Le gouvernement réquisitionne l'ensemble des stocks et de la production de masques de protection. Ils seront désormais réservés aux médecins et aux malades du coronavirus.
L'épidémie pourrait durer des semaines, voire plusieurs mois, d'après Emmanuel Macron.
L'arrivée des beaux jours va-t-elle freiner la propagation? Rien n'est moins sûr, selon les spécialistes.
Dans ce journal, le projet de loi retraite adopté en première lecture, rejet des deux motions de censure de droite et de gauche. Votre invité à 8h15, Sonia.
Il promet de continuer le combat. Le camarade Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste, mais avec quelles armes après le coup de massue du 49-3?
Pour stopper les vagues de migrants à la frontière gréco-turque, Athènes suspend toute demande d'asile illégale, accuse le haut-commissaire aux réfugiés.
La demande d'asile est un droit humain fondamental et le principe de non-refoulement l'est tout autant dans le droit international.
Et nous serons justement à la frontière gréco-turque avec l'envoyé spécial d'Europe 1.
50 ans déjà après sa mort, un film sur la vie du général de Gaulle. En salle aujourd'hui, pas facile d'incarner le grand homme même lorsque l'on s'appelle Lambert Wilson.
Ce de Gaulle-là, qu'on ne connaît pas, c'est plus facile de l'aborder. Donc c'est moins impressionnant et à ce moment-là, je me suis dit, c'est bon, allez, on fonce.
8h02 sur Europe 1, très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, Sonia Mabrouk.
L'État va réquisitionner tous les stocks et la production de masques de protection contre le coronavirus. Le décret a été publié cette nuit. Les pouvoirs publics vont donc se charger eux-mêmes de la distribution.
Le but étant d'éviter une flambée des prix et le risque de pénurie pour ceux qui en auraient vraiment besoin, les malades et le personnel soignant.
Alors comment va se passer concrètement cette réquisition? Les précisions de Théo Manval.
Désormais, vous ne pourrez plus acheter les fameux masques FFP2 en pharmacie sans prescription de la part d'un médecin qui attestera que vous avez des symptômes, toux, fièvre, justifiant le port de ce masque. Et dans ce cas, il vous sera fourni gratuitement. Le gouvernement veut ainsi éviter la hausse des prix dans les officines et une pénurie liée à la ruée actuelle de Français en parfaite santé. La réquisition en amont va se faire en deux temps. D'abord, récupérer les stocks de tous les FFP2 mis de côté par des entreprises, par exemple, pour leurs salariés partout en France. Et réquisition de toute la production des quatre sites qui fabriquent ces masques dans l'Hexagone. L'État leur a déjà demandé de produire 24 heures sur 24. Nicolas Bria dirige l'entreprise Valmy dans la Loire.
On a dû produire à peu près 2,5 millions de masques en février. Aujourd'hui, on est passé à 6,5 millions.
Et est-ce que, comme certains de vos confrères, vous craignez des ruptures de stock de matières premières?
Pour l'instant, on a un stock qui va durer un mois et demi, deux mois. La question, c'est est-ce qu'au-delà des deux mois, on va réussir à avoir quelque chose?
À ce stade, l'État a déjà en réserve 145 millions de masques, mais surtout des masques chirurgicaux les plus basiques, dont 10 millions ont commencé à être débloqués pour les professionnels de santé.
Un quatrième décès enregistré hier en France, un homme de 92 ans dans le Morbihan. Il y a actuellement 212 cas recensés dans le pays depuis le mois de janvier.
Et découverte hier d'un nouveau foyer à Mulhouse, quartier Burtzwiller. Cette contamination survenue il y a 2 semaines au cours d'un office dans une église.
Emmanuel Macron prévient que l'épidémie pourrait durer des semaines, voire même des mois. Autre interrogation, comment va-t-elle évoluer?
Vous avez peut-être lu tout et son contraire sur les réseaux sociaux. Bien sûr que le virus ne survit pas à des températures très basses ou à l'inverse très chaudes. Ève Roger, c'est bientôt la fin de l'hiver. Est-ce que ça peut stopper l'épidémie?
La réponse est non. Quand un virus respiratoire émerge à partir d'un réservoir animal comme le Covid-19 et qu'il circule pour la première fois, peu importe la saison. En 2009, par exemple, le pic de l'épidémie de la grippe H1N1 en Angleterre avait eu lieu au mois de juillet. Deuxième question, combien de temps peut durer cette épidémie, ou en tout cas ce premier épisode? La réponse de Bruno Lina, directeur du Centre national de référence de la grippe à Lyon.
Les tailles moyennes des épidémies sont effectivement de 2 à 3 mois. Il peut y avoir éventuellement plusieurs vagues aussi. On va avoir des gens qui vont s'infecter, les infectés vont guérir, en guérissant ils vont devenir immunisés, et à un moment donné, cette immunité va freiner la diffusion du virus, et si on couple ça avec des mesures d'hygiène et des mesures barrières, eh bien l'épidémie s'arrête.
Dernière question, combien de personnes pourraient être infectées lors de ce premier épisode? Il faut regarder dans le passé. En 2009, 15% de la population a été touchée par la grippe H1N1, 30% à l'occasion d'autres épidémies du même type. Selon le spécialiste, la réponse pourrait donc se trouver au milieu.
Et conséquence du virus, nous vous l'avons raconté, de plus en plus d'événements sont annulés ou reportés. Les organisateurs qui avaient souscrit une assurance avant le mois de décembre seront indemnisés. Pour les autres, par contre, ce sera beaucoup plus compliqué. C'est une information que vous révèle ce matin Europe 1. Plus aucun assureur ne veut couvrir le risque d'annulation pour cause de virus. Cet aléa est jugé trop fort.
Bonjour Jean-François Rébu.
Bonjour.
Directeur adjoint des risques spéciaux chez le courtier en assurance Verspiren. Vous confirmez, hein, ce matin, les assureurs ne veulent plus couvrir les annulations pour cause de coronavirus?
Absolument. Verspiren est le courtier des plus grands événements français dans le monde du sport. Nous assurons des événements dans le tennis, dans les marathons, dans les coupes du monde de ski. Et nous avons la chance de travailler très en amont sur ces événements. C'est-à-dire que nous les garantissons plusieurs mois, plusieurs semaines avant le début de l'événement, ce qui nous permet de les sécuriser et qu'ils puissent profiter de la totalité des garanties.
Vous parlez des grands événements, simplement parce qu'on a du mal à y voir clair. Dans les mois qui viennent, il y a Cannes, le Tour de France, il y a Roland-Garros même avant ça. Sans assurance spécifique, ces organisations se mettent en danger?
Elles seraient en danger si elles n'avaient pas pris leurs précautions avant. Tous les gens que vous venez de citer sont des gens très responsables, très bien organisés, qui prennent leurs précautions des mois et des semestres avant les événements.
Et si le gouvernement venait à décréter l'état de catastrophe naturelle, comme l'a d'ailleurs demandé hier sur notre antenne la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, est-ce que ça forcerait les compagnies d'assurance à indemniser, quoi qu'il en soit?
Cela dépendra de chacun, de chaque contrat. Si dans les conditions générales de vente de chaque organisateur, les conditions de remboursement sont précisées, et si le client, si l'assuré a fait ce qu'il fallait dans les temps, comme nous venons de l'évoquer tous ensemble, ils seront évidemment remboursés. À défaut, il y aura des indemnités, il y aura des pénalités et des très grosses souffrances pour les organisateurs.
Bien sûr. Merci à vous, Jean-François Rebut, d'être intervenu en direct dans le journal de 8h.
Sans surprise, l'Assemblée nationale rejette les 2 motions de censure de l'opposition. De fait, le projet de loi retraite est adopté en première lecture après usage de l'article 49.3 de la Constitution.
Et place à partir d'aujourd'hui à l'étude du projet de loi organique. Le texte ira ensuite au Sénat le mois prochain avant un retour à l'Assemblée. En attendant, certains assurent qu'ils poursuivront le combat contre la réforme. C'est le cas de mon invité à 8h15, le député du Nord et secrétaire national du Parti communiste Fabien Roussel.
Réunion exceptionnelle des ministres de l'Intérieur de l'Union européenne aujourd'hui à Bruxelles autour de la crise migratoire redoutée à la frontière entre la Grèce et la Turquie.
L'UE promet 700 millions d'euros pour aider la Grèce à faire face à cette vague de migrants depuis que le président Erdogan a ouvert ses frontières. Mais sans attendre, la Grèce a d'ores et déjà suspendu toute demande d'asile. Le reportage à la frontière de Pierre Herbulot.
Les seuls moments de la journée où la grande grille du poste frontière s'ouvre, c'est pour laisser passer les relèves de militaires et les grands cars bleus de la police, grille de protection aux fenêtres. Devant le portail, avec sa veste du Haut Commissariat pour les réfugiés, Nanou explique à qui veut bien l'entendre que suspendre les demandes d'asile est illégal.
La demande d'asile est un droit humain fondamental et le principe de non-refoulement l'est tout autant dans le droit international. Les deux doivent être respectés.
Le discours sonne creux auprès des locaux qui s'inquiètent de voir arriver des milliers de réfugiés. Pour Costas, la décision de son gouvernement est au contraire courageuse.
C'est illégal, mais ce serait mieux pour la Grèce de garder cette position pour toujours. Ceux qui veulent de ces migrants n'ont qu'à les prendre. L'Allemagne, la France, nous, on n'en a pas besoin.
Tous les nouveaux migrants sont donc en situation irrégulière en Grèce. Dans le centre de la commune, deux d'entre eux sont repérés par un hélicoptère et interpellés par des policiers à moto. Ils passeront la nuit en détention. Leur rêve d'Europe s'est achevé seulement 500 mètres après la frontière. À Castagnès, Pierre Arbulo, Europe 1.
L'actualité de la nuit, c'est aux États-Unis. La grande nuit du vote démocrate avec la surprise, Joe Biden, l'ex-vice-président américain.
La presse et les experts disaient que notre campagne était morte. Avec ces résultats, nous sommes bien vivants et ne vous y trompez pas. Cette campagne va renvoyer Donald Trump à la maison.
14 États étaient en jeu lors de ce Super Tuesday. Joe Biden, que l'on disait à la traîne, en a remporté pour l'instant 8. Bernie Sanders, lui, en a obtenu 3 pour l'heure. On attend encore, bien sûr, les résultats de la Californie, du Texas et du Maine.
Michael Bloomberg, quant à lui, a fait chou blanc. Bonjour Vincent Hervouet.
Bonjour.
Son pari de l'argent n'a pas fonctionné.
Oui, il y a Biden qui a le premier rôle, puis il y a Bloomberg qui est enfin monté sur scène et qui s'est étalé tout son long, ce 1m70 que moque méchamment Donald Trump. Le milliardaire avait tout misé sur le Super Tuesday, il ne menait pas campagne, il faisait une sorte d'OPA, patatras, il arrive troisième, largement derrière. Sa seule consolation, c'est de battre au poteau Elizabeth Warren, qui le déteste. Il annonce qu'il va réévaluer sa participation dans la journée. C'est en quelque sorte le clairon du repli qui sonne dans la nuit. Alors la première leçon est morale, tout ne s'achète pas. Michael Bloomberg a mis 2 milliards sur la table, comme s'il louait la Maison Blanche. Il s'est offert une gloire médiatique à coups de clips télé, en saturant Facebook avec une petite armée d'employés. Il en a enrôlé plus de 2000 pour vanter sa gloire. Et bien rémunéré, il leur offrait même un logement à New York, s'il venait le rejoindre. Et ainsi, il s'est hissé dans les sondages. Mais évidemment, les histoires sur Bloomberg sont d'ailleurs dans le top 5 sur les réseaux sociaux, ça marche donc, et les sondages ont suivi, et puis ce matin, le carrosse redevient une citrouille, et il ne suffit pas qu'on parle de vous pour qu'on vote pour vous, le pari de l'oligarque est raté, les deux débats auxquels il a participé l'ont en quelque sorte plombé, et 563 millions de dollars sont partis en fumée, Donald Trump dit 700 millions, la campagne la plus chère de l'histoire américaine a raté.
Il a promis quand même de mettre sa fortune à disposition du candidat démocrate qui sera finalement désigné.
Oui, alors c'est toute une infrastructure, une sorte de parti parallèle qu'il a construit en dépensant 10 fois plus que Biden qui peinait la semaine dernière encore à trouver des financements. Et cet argent, l'organisation, la technologie vont permettre à Bloomberg de s'imposer comme arbitre. Il était entré en campagne pour barrer la route à Donald Trump. Il se retrouve à barrer celle de Bernie Sanders.
Le regard international de Vincent Hervouet, c'est tous les jours dans le journal de 8h.
Vous restez avec nous dans un instant, une campagne des municipales singulières. Ça se passe à Sablé-sur-Sarthe, l'ancien fief de François Fillon. Une campagne rythmée par le procès en cours.
Il est 8h14, la suite du journal. Mathieu Béliard, Sonia Mabrouk.
Ironie du calendrier en plein procès des époux Fillon, notamment pour détournement de fonds publics. L'ancien suppléant de François Fillon, Marc Joulot, comparé lui aussi au procès. Marc Joulot, à la fois prévenu et candidat à sa réélection comme maire de Sablé-sur-Sarthe.
Alors forcément, la campagne sur place est particulière, même si certains estiment qu'il n'a été qu'un pion au service des Fillon. Pauline Jacquot.
Il se retrouve empêtré dans ce que Fillon a dû lui demander, je pense.
France hoche la tête, Chantal acquiesce, et Marc Joulot a été aspiré par le tourbillon de l'affaire Fillon.
Je pense que celui qui va surtout, qui risque gros, c'est Fillon, c'est pas Marc Joulot. Hein.
Et les gens, ils oublient vite. Hein.
Oui.
Ils oublient vite, les gens.
Et s'efforce surtout sur ce marché d'éviter le sujet judiciaire. Si je vous dis Marc Joulot, vous pensez à quoi?
Bon, le maire de Sablé. Rien d'autre.
Il n'y a pas une échéance judiciaire?
Oh, je ne pense pas, non. Pour les Saboliens, non. C'est un pion qu'on a mis là, puis c'est tout, donc c'est pas de sa faute. Non. J'espère qu'il sera réélu de Sablé.
Je pense que c'est quelqu'un qui est bien, qui a bien fait évoluer sa ville. Et puis, bon, bah, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
C'est pas
voilà.
Gênant qu'il y ait ce procès qui arrive?
Je sais pas, ça a peut-être été précipité parce qu'il y a les élections.
Eric fait la queue à côté chez le charcutier.
Moi, je suis pas dans le déni, hein. Je veux dire, c'est comment...
Immédiatement regardé de travers dans la file d'attente.
Présomption d'innocence, mais bon, parce qu'il a quand même fait des choses qui sont pas recommandables pour un homme politique, quoi. Il y en a beaucoup qui l'acceptent pas, Sablé, oui. Ils sont tombés tellement haut que pour pas se faire mal, ben, ils disent c'est pas vrai.
Sablé-sur-Sarthe, Pauline Jacquot, Europe 1.
50 ans après sa mort, un premier film sur la vie du général de Gaulle sort aujourd'hui en salle. Rendez-vous compte, 50 ans après sa mort.
Et le film est sobrement intitulé « De Gaulle, dans la peau du général Lambert Wilson ». Alors pourquoi a-t-il fallu attendre tant de temps pour un long métrage consacré à cette figure historique ? Mathieu Charrier s'est penché sur la question.
La difficulté qui a découragé plus d'un réalisateur, c'est l'immensité du personnage, de l'homme de Gaulle. Sur quoi centrer le film ? Quel angle choisir ? Gabriel Lebaumin a donc décidé de recentrer son histoire sur les quelques semaines précédant l'appel du 18 juin et surtout sur comment le général a géré durant cette période sa famille, son couple avec Yvonne. C'est d'ailleurs le sujet qui a convaincu Lambert Wilson.
Ce qui m'a tout de suite intéressé, c'est la photographie qu'il y avait sur le scénario qui montrait De Gaulle en 1940 avec Yvonne. Une complicité amoureuse, amusée. Et je me suis dit, ce De Gaulle-là, qu'on ne connaît pas, c'est plus facile de l'aborder. Donc c'est moins impressionnant. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est bon, allez, on fonce.
Ensuite, il a fallu composer le personnage, décider d'imiter ou non le phrasé si particulier du général.
On ne peut pas avoir cette voix tonitruante, pleine d'emphase, avec des airs roulés, dans des scènes, famille, passe-moi le sel, des choses très très simples, non.
Et c'est libéré de tous ces poids que Lambert Wilson a pu camper De Gaulle comme n'importe quel autre personnage, un humain avec son histoire, ses failles, ce qui donne un film très académique, qui ne révolutionne pas le genre, mais efficace, à destination d'un public familial intéressé par l'histoire de France.
De Gaulle, un film de Gabriel Lebaumin, et avec Lambert Wilson en salle aujourd'hui.
8h16 sur Europe 1. Votre invité politique, Sonia.
À n'en pas douter, notre invité passionné par l'histoire de France ira voir le film De Gaulle. Peut-être que le film rappellera d'ailleurs que l'outil du 49-3 est bel et bien prévu par la constitution de la 5e République, conformément à la vision du général De Gaulle. N'est-ce pas, monsieur le secrétaire national du Parti communiste ? Bonjour, Fabien Roussel.
Bonjour.
À tout de suite sur Europe 1.
Il est 8h19, la matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
Et votre invité Sonia Mabrouk, c'est le député du Nord, Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français.
Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1, Fabien Roussel. Vous avez obtenu ce que vous cherchiez ?
C'est-à-dire ?
Le recours au 49-3 vous a permis de crier hier au déni démocratique et de camper les indignés de l'Assemblée.
Ah, vous c'est rigolez, ce que vous cherchiez ? Jamais nous n'avons souhaité le 49-3. Jamais, aucun, je ne connais pas un parlementaire qui peut souhaiter le 49-3. C'est une arme létale qui tue le débat au sein de l'hémicycle. Personne ne souhaite le 49-3. En tout cas, nous ne l'avons jamais voulu. Je n'ai d'ailleurs jamais employé les mots de guérilla, de tranchée, de guerre, tous ces mots violents. Je ne les emploie pas. Nous, les députés communistes, nous avons voulu avoir des réponses à toutes les questions que nous avons posées. Et chaque amendement était autant d'occasions pour nous d'avoir la vérité sur l'âge de départ réel pour ceux qui seront nés après 75. Et nous disons qu'avec cette réforme, ils vont devoir partir à 65 ans. Nous avons posé des questions nombreuses sur la pénibilité. À quel âge vont partir les couvreurs, les infirmières, les aides-soignantes qui aujourd'hui peuvent partir à 57 ans, par exemple. Avec cette réforme, elles vont devoir partir à 62, 63
ans. Mais vous avez quand même dit, Fabien Roussel, à propos du 49-3, et je vous cite, on n'a pas le droit de l'utiliser sur un texte aussi important. Je vous pose donc ces questions. Est-ce que pour vous, la dissuasion nucléaire, c'est important ? Est-ce que pour vous, la question des privatisations, c'est important ? Car vous le savez mieux que d'autres, dans notre histoire politique, le 49-3 a déjà été utilisé sur ces sujets importants. Ce n'est donc pas une première.
Ben non, c'est pas une première.
Sur un sujet important.
La République En Marche avait promis qu'ils feraient de la politique autrement. Ils font de la politique comme les autres. Et c'est tout. Ils s'appellent La République En Marche. En utilisant le 49-3, ils blessent la République.
Est-ce que le recours à des milliers d'amendements, c'est faire la politique autrement ?
On a affaire à un texte de loi fondamental qui engage le pays pour les 50 prochaines années, qui va toucher toutes les générations et tous les salariés du public comme du privé. Le Premier ministre a avoué hier, dans un long discours poussif qui avait des goûts d'oraison funèbre, a dit qu'il fallait 8 semaines de débat. Et c'est au nom de ces 8 semaines qu'il impose le 49-3. Un texte fondamental aussi important que celui-là ne méritait pas 8 semaines de débat. C'est cela que je trouve honteux.
Mais Fabien
Il aurait
Roussel,
dû laisser ces 8 semaines de débat.
On a parlé tout à l'heure du général de Gaulle et vous irez voir le film. Le général de Gaulle qui avait dit une constitution, c'est un esprit, des institutions, une pratique. Le 49-3 est prévu par la constitution. Ça, vous ne le niez pas, qu'on comprenne votre position.
Pour nous, communistes, le 49-3 ne devrait pas figurer dans notre constitution. D'ailleurs, nous appelons à une 6e République plus respectueuse des institutions et des élus. Et donc, nous n'avons jamais salué l'usage du 49-3, nous le dénonçons, et si nous étions en responsabilité, nous ne l'utiliserions pas. Et c'était d'ailleurs une promesse de l'ancien président de ne plus de sortir le 49-3. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui fait le choix de l'utiliser alors qu'ils ont la majorité absolue à l'Assemblée nationale, alors qu'il n'y avait pas d'urgence. Je ne comprends pas pourquoi ils l'utilisent et pourquoi ils ferment comme ça, brutalement, le débat sur la réforme
des retraites. Vous dites brutalement, c'est important. Hier, à l'Assemblée, Jean-Luc Mélenchon a encore dénoncé un régime autoritaire. Est-ce que c'est votre avis, Fabien Roussel ?
Oui, il y a une forme d'autorité de la part de ce gouvernement sur cette réforme des retraites.
C'est pas la même chose, autorité. Est-ce que c'est un régime autoritaire ? Le 6 février dernier, vous avez dit nous sommes dans un pays autoritaire.
Oui, c'est un régime autoritaire par ses méthodes qui fait qu'il refuse la négociation avec les organisations syndicales. Il refuse la négociation avec les organisations syndicales. Hier, il s'est même félicité du départ de Force ouvrière et de la CGT de la conférence de financement. Ils vont se retrouver entre eux, entre gens d'accord. Ils vont discuter du financement.
C'est ça la définition d'un régime autoritaire ?
Il ferme le débat. Il ferme le débat à l'Assemblée nationale. Il se moque des considérations du Conseil constitutionnel qui a trouvé que ce texte de loi...
Est-ce que c'est ça la définition pour vous d'un régime autoritaire ? Les mots ont quand même leur importance.
Un régime autoritaire, c'est quand 300 députés de La République En Marche décident envers et contre tout d'imposer par le 49-3 une réforme qu'une majorité des Français ne veulent pas. Vous citiez le général de Gaulle. Le général de Gaulle respectait la souveraineté du peuple. C'est lui qui a fait de très beaux discours là-dessus et lui-même a utilisé 5 fois le référendum. Et c'est ce que nous avons proposé pour sortir de la crise. Nous ne sommes pas butés.
Attendez,
nous avons proposé le référendum et donner la parole au peuple pour sortir par le haut.
Un régime autoritaire pour le secrétaire national du Parti communiste, c'est utiliser un outil prévu dans la Constitution. Pourriez-vous me dire alors si la France est un régime autoritaire pour vous, dans quelle catégorie vous classez la Chine, la Russie, la Turquie, l'Iran ? Pour qu'on sache où vous placez ce curseur d'un pays autoritaire.
Donc c'est vous-même qui citez ces pays au même niveau que la France.
Ah
donc
non,
vous voyez
vous
un petit
question.
Peu le niveau.
Vous les mettez au même niveau où...
Non, c'est vous qui les citez là-dedans.
Est-ce que
moi,
ce
je
sont
parle
des régimes
pas des autres pays, je parle de mon pays. Mon pays, la France,
est-ce que vous les
qui est une république,
à ces
et dans cette république, il y a une démocratie que l'on doit faire vivre. Aujourd'hui, cette démocratie, elle est abîmée. Il y avait une sortie de crise possible, c'était d'utiliser le référendum, ou c'était pour le moins de laisser le débat avoir lieu à l'Assemblée nationale. Vous vous rendez compte que la droite, comme nous avons utilisé hier les mêmes mots pour dénoncer l'absence de réponse, l'absence de débat. La démocratie abîmée. Ensemble, nous avons dénoncé
le débat n'est pas terminé. Il va se poursuivre au Sénat, où le président Gérard Larcher demande d'ailleurs son report, car la conférence de financement est loin d'être terminée. Est-ce que vous comprenez sur ce sujet, Gérard Larcher ?
Bien sûr, Gérard Larcher, comme la droite à l'Assemblée nationale, fait de la résistance, et donc il propose de repousser l'étude du débat, pour au moins avoir les pistes de financement de cette réforme.
Parce que vous vous inquiétez désormais de l'équilibre financier de la réforme ?
Mais on l'a fait depuis le début, bien sûr.
Puisque donc Fabien Roussel, Gérard Larcher, même combat.
Mais pourquoi pas ? Au moins, sur le fait... nous n'avons pas les mêmes objectifs, la droite et nous. Eux, ils sont pour maltraiter les ouvriers, les salariés du public, en leur demandant de travailler plus longtemps. En revanche, eux comme nous... Nous pointons l'absence de financement dans cette réforme. Ils veulent, La République En Marche, baisser la part des richesses que nous consacrons aux retraites de 14% à 12,9%. C'est 23 milliards d'euros en moins pour financer les retraites. Où vont-ils aller chercher l'argent ? Et nous disons qu'ils vont aller chercher cet argent en demandant aux Français de travailler plus longtemps. Et c'est de cela que nous voulons passer. C'est un vrai projet de société qui aujourd'hui pose les termes de ce débat.
Autre projet de société et même un projet de civilisation. Non loin de la France, à la frontière gréco-turque, Erdogan menace d'ouvrir les portes aux migrants qui se dirigeront par centaines de milliers vers l'Europe. Si vous étiez aux responsabilités, Fabien Roussel, que feriez-vous ? Les accueillir ?
D'abord, je ferai tout pour trouver rapidement le chemin de la paix en Syrie, où il y a eu 600 000 morts. Jamais je n'aurais confié,
savez,
la responsabilité de contenir
faire,
les migrants à Erdogan. Erdogan est le dirigeant d'une république quasi islamique. Il enferme les progressistes chez lui. Il chasse les Kurdes laïcs.
Monsieur Roussel,
et aujourd'hui,
les migrants
laissez-moi finir.
Ils n'avaient d'autre choix que de passer
Erdogan
par cette frontière-là.
Erdogan choisit de soutenir des djihadistes, des mouvements terroristes en Syrie. Il a fait une intervention dans un pays qui n'est pas le sien. Aujourd'hui, la responsabilité de la communauté internationale et de la France est de saisir rapidement le Conseil de sécurité de l'ONU pour imposer une paix immédiate en Syrie, où ce conflit a trop tué et qui provoque forcément des migrations énormes. Il y a près de 4 millions de Syriens contenus en Turquie dans un accord honteux que l'Union européenne a signé.
Attendez, ma question était claire. Est-ce qu'il faut accueillir les migrants ? Pardonnez-moi.
Vous vous rendez compte de cette situation horrible ?
La question est claire.
Qui fait qu'aujourd'hui, c'est cette question-là que vous me posez, alors que la priorité, c'est de trouver les chemins de la paix en Syrie et que toutes ces familles puissent pouvoir reconstruire leur vie chez eux. C'est ça qui doit être aujourd'hui l'objectif.
La paix prend du temps, monsieur Roussel. Qu'est-ce que vous feriez pour ces milliers d'hommes ? En priorité, il y a des femmes et beaucoup d'hommes. Est-ce que la France doit les accueillir pour vous ?
Mais c'est pas la France, c'est l'Union européenne.
Dont
la France. Chacun doit prendre sa part dans l'accueil encore de ces familles
dans qui fuient aujourd'hui
la guerre, pour laquelle aujourd'hui je ne vois pas de déclaration forte pour demander la fin de ce conflit. C'est pour ça que, permettez-moi, mais pour moi la priorité, c'est de stopper ces bombardements à Idlib qui sont insupportables. Que fait la Turquie dans un pays qui n'est pas le sien à bombarder des populations et à soutenir des djihadistes.
La Turquie,
enfin, tout le monde est d'accord
régime,
là-dessus.
Turquie...
Je regrette que Le Drian, hier, à l'Assemblée nationale, a fait des réponses, mais creuses comme le texte
Monsieur
de la réforme des
retraites. La Turquie est donc un régime que vous qualifiez de...
La Turquie est une république quasi islamique. Oui, je le dis. Parce que ils ont une attitude envers leur population. Ils font le choix de soutenir les djihadistes en Syrie. Et pour cette raison-là, je ne ferai aucune confiance à Erdogan et je mettrai tout mon poids pour obtenir qu'il rentre chez lui et obtenir enfin la paix en Syrie. Enfin, on ne peut pas. On est au seuil d'un conflit avec la Russie sur le théâtre syrien. Au moindre incident, ça peut s'embraser. C'est aux portes de l'Europe. Et vous me parlez d'accueillir quelques migrants.
Une république,
mais demain, ça va être demain, ça va être des dizaines de millions.
Une république quasi islamiste. On a compris, on vous a entendu. Merci Fabien Roussel, invité ce matin sur Europe 1.
Merci Sonia Mabrouk, à suivre la météo et les infos. Bon réveil à tous.
8h32 sur Europe 1, Mathieu Bellière.
Un nouveau point sur l'information avec Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
L'exécutif face au coronavirus, conseil de défense spécial ce matin à l'Élysée.
Une mobilisation de l'État renforcée avec dès hier l'annonce de la réquisition de la production et des stocks de tous les masques jusqu'au 31 mai. Le ministère de la Santé doit également dévoiler ses recommandations pour les maisons de retraite et les EHPAD alors que les personnes âgées sont les premières victimes du virus. Sans attendre d'ailleurs, certains établissements ont décidé de mettre en place des mesures strictes comme à la résidence du parc à Châtillon, près de Paris, où s'est rendue Virginie Selmen pour Europe 1.
Bonjour, on va vous faire signer le registre.
Trois mesures barrières, du gel hydroalcoolique dès le sas d'entrée, signature d'un registre et prise de température sur le front.
Bougez pas, 36,1, c'est bon.
Monsieur Prince, un résident, observe du coin de l'œil ces nouvelles mesures.
Ça m'a appris qu'on pouvait prendre la température sur le front alors que moi... Je ne connaissais pas. Ça me paraît nécessaire.
Une autre résidente, Madame Bailly, avoue qu'avant le coronavirus, même en temps de grippe, elle ne se lavait presque jamais les mains.
Et donc maintenant, vous vous lavez les mains tous les combien ?
Ah ben, j'ai pas compté. Ben, il faudrait quelqu'un comme une secrétaire qui me le note. Mais je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas me laver les mains, je peux penser au virus. Je ne peux pas. Le plus possible.
Des mesures barrières nécessaires, mais qui changent beaucoup le quotidien des personnes âgées, nous dit Karine Beaufis.
Moi, je suis animatrice et donc pour l'instant, on m'a demandé de suspendre toute sortie à l'extérieur. Donc par exemple, pour les élections municipales, on devait emmener les résidents à aller voter. Bon, malheureusement, on a suspendu nos sorties. Jusqu'à nouvel ordre.
Et les visites des enfants de moins de 18 ans qui peuvent être porteurs du virus sont désormais formellement interdites.
Et les personnels du Louvre se prononceront ce matin sur une éventuelle reprise du travail au lendemain du jour de fermeture hebdomadaire du site. Les salariés avaient exercé leur droit de retrait dimanche et lundi. Le délibéré aujourd'hui dans le procès en appel du couple Balkany pour fraude fiscale, 4 et 2 ans de prison ferme avaient été requis ainsi que 10 ans d'inéligibilité. Le duel désormais annoncé dans la course à l'investiture démocrate aux États-Unis, Bernie Sanders face à Joe Biden qui l'emporte dans au moins 9 États sur les 14 ayant voté hier. Et puis, il était l'homme qui murmurait dans les oreillettes des trois derniers vainqueurs du Tour de France, Chris Froome, Geraint Thomas, Egan Bernal. On a appris hier soir la mort du directeur sportif d'Ineos. Il s'appelait Nicolas Portal, natif du Gers. Il avait 40 ans.
Merci beaucoup Marion Calais. Dans quelques secondes, la météo avec Laurent Cabrol.
Europe 1. Europe 1, il est 8h35.
Et c'est l'heure de retrouver Laurent Cabrol pour la météo.
Avec une journée relativement pluvieuse, je dis relativement parce que les pluies ne sont pas très fortes, mais enfin elles sont là, sur l'ensemble des côtes atlantiques, et elles vont traverser tout le pays dans le courant de la journée. À la mi-journée, nous les retrouverons probablement au-dessus de l'Île-de-France et sur le Berry, l'Auvergne, la Picardie notamment, et ensuite seront épargnées probablement les régions de l'Est. Demain jeudi, de nouvelles pluies, mais celles-là seront beaucoup plus musclées, abondantes, attention, hein, avec du vent. Vendredi, des averses, également musclées, de fortes averses sur la plupart des régions. Samedi, un répit. Dimanche, bof. Lundi, bof. Mardi, bref. Autant dire deux beaufs et un bref, ça veut dire qu'on ne change pas, on change pas les conditions météo dans les jours qui viennent.
Laurent Cabrol, inimitable. Enfin, quoique, Nicolas Canteloup y arrive pas mal. Dans une dizaine de minutes, Laurent Cabrol avec Nicolas Canteloup. Et dans un tout petit instant, notre rendez-vous à la ferme avec Fanny Agostini.
Ça sent la bière.
Que faire des résidus de brasserie? Non pas seulement Jacques Brel, évidemment, pour la musique, mais on va découvrir un ameublement, des meubles fabriqués en reste. Ça s'appelle des drèches, les restes de brasserie. Fanny Agostini, le rendez-vous à la ferme dans un tout petit instant.
8h38, la matinale d'Europe 1, c'est avec Mathieu Béliard.
Et nous partons pour l'Auvergne, où vit Fanny Agostini dans sa ferme pédagogique. C'est le rendez-vous à la ferme d'Europe 1 tous les matins. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu.
Et ma chère Fanny, on va parler malte, orge et donc bière. Vous nous dites qu'à partir de la bière, on peut maintenant faire des meubles.
Oui, ça vous intrigue, hein. Imaginez-vous, Mathieu, boire une bière et en même temps vous asseoir dessus, vous asseoir sur ce que l'on appelle du mobilier brassé. On peut faire effectivement des chaises, des tabourets, des tables et pourquoi pas des bancs, des lampes, des panneaux acoustiques et tout un tas d'accessoires brassicoles comme des dessous de verre, des caisses de transport, tout ça à partir de la bière.
Mais pas avec la bière en elle-même, hein, j'imagine, mais avec les résidus liés à sa fabrication, c'est bien cela ?
Tout à fait, tout à fait. Ce qu'il reste en bout de chaîne de production après avoir brassé la bière, c'est ce que l'on appelle la drèche, c'est-à-dire le moût de malt et des autres céréales qui sont rentrées dans sa confection. Et une infime partie de cette drèche est utilisée en compost ou pour les animaux d'élevage, mais globalement, c'est du déchet qui fermente en déchetterie. Et le ratio, c'est en moyenne 300 kg de drèche pour 1000 litres de bière brassée. Sachant que 2 milliards de litres de bière ont été consommés en France, par exemple, en 2017, ça laisse imaginer des monticules de drèche qui sont même économiquement et logistiquement compliqués à gérer.
Et du coup, cette drèche, elle peut trouver aujourd'hui, Fanny, une nouvelle vie.
Bah, c'est un peu l'idée, une nouvelle vie pour ces résidus fibreux qui sont en fait, Mathieu, une matière première extra pour mouler des meubles légers, résistants, flexibles, malléables, imperméables. Voici encore un exemple, celui-ci très rafraîchissant avec la bière, un exemple parmi tant d'autres, Mathieu, tout aussi surprenant, qui doit nous faire penser la conception et la fabrication de tout ce qui nous entoure autrement, particulièrement dans les process industriels qui rejettent des quantités massives de chutes ou de résidus en tout genre. Le mot déchet en 2020 est presque, j'ai envie de dire, un gros mot. C'est assez vulgaire dans un monde où le gaspillage n'a plus sa place.
On apprend des choses au contact de la nature. On boit vos paroles, Fanny Agostini. C'est le rendez-vous
le
à la
mobilier
ferme
brassé.
Tous les matins sur Europe 1, 8h40.
En attendant demain sur Europe 1, Jean-Pierre Montanet.
Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Mathieu.
Après l'âge d'or du bébé Cadom, du nom d'un savon dans les années 60-70 bien sûr, voici le bébé Greta, le bébé écolo. Demain, le marché du nouveau-né va carburer au vert.
Oui, fini les pubs pour vanter le système anti-fuite des couches. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est que bébé pose ses petites fesses roses dans une couche durable, que l'on ne va donc pas jeter dès le premier popo. Amac, start-up montée par une maman, propose une couche lavable, garantie sans perturbateurs endocriniens, et ça cartonne, plus 30 à 40% chaque année depuis 4 ans. Pour ceux qui ne seraient pas encore mûrs pour laver les couches en machine, hein, je m'adresse surtout au papa, ça exige un peu de manip à haut risque, hein, vous voyez ce que je veux dire.
Désormais, et vous savez, le monde a changé, mon cher Jean-Pierre.
Oui, laver des couches, vous verrez. Misez alors sur des couches jetables, mais écologiques, confectionnées à partir de matières naturelles, coton responsable, sans lotion chimique ni chlore, encore moins d'allergènes. Même le numéro 1 Pampers a lancé sa propre gamme. Jackpot, la consommation a bondi de près de 60% en 2019.
Vous savez que sur un bébé normal, 0-3 ans, vous allez dépenser entre 1500 et 3000 euros de couches jetables.
Eh bien, bravo les couches lavables.
En l'occurrence. Et le bébé, demain, il va aussi manger bio.
Ah, c'est bien parti pour. Hein. À son insu, le nourrisson est l'otage d'une bataille entre géants de l'agroalimentaire. Nestlé, Danone, qui ne jure que par le petit pot pommes de terre carottes, issu de l'agriculture biologique. Un tiers des rayons alimentation bébé dans certaines grandes surfaces est trusté par le bio, contre 10% seulement pour les adultes. Et ça va en augmentant. Des enseignes plus modestes et françaises séduisent aussi les parents addicts aux biologiques, aussi bien pour le lait infantile que pour les petits plats préparés, comme Good Goût ou encore Baby Bio, société de Gironde qui se paie le luxe d'offrir aux 8-12 mois un petit pot, écoutez bien, panais, courge, butternut, canard, polenta, intitulé tout droit sorti de la carte d'un bistrot branché. Allez, un petit rototo sur le canard polenta. On rêve, non, Mathieu?
Alors, est-ce que c'est un mouvement de fond, Jean-Pierre, ou du greenwashing, comme on dit?
Les deux, mon capitaine. Les jeunes parents citadins, bobos ou pas, qui achètent de la farine d'épeautre bio en vrac, forcément, quand bébé débarque dans le foyer, il a droit au même régime. On peut parier sur le cercle vertueux. Un nourrisson biberonné au bio n'aura pas plus tard à se convertir à une nourriture respectueuse de l'environnement. Il sera déjà programmé pour. Que certaines start-up se lancent sur ce marché prometteur avec des convictions, la certitude que cette tendance est pérenne, que ça peut faire évoluer demain les habitudes alimentaires, c'est une évidence. Que d'autres enseignes plus commerciales surfent sur la mode en barbouillant biberons et gigoteuses en verre, c'est aussi une réalité. Mais s'il y a tromperie sur la marchandise, bébé saura s'en souvenir. Les arnaques d'aujourd'hui forgent les combats de demain.
Jean-Pierre Montanet et le bébé qui se met au bio. Parfois, c'est la porte d'entrée du bio dans les familles, justement, avec l'arrivée d'un bébé. On va peut-être faire un peu plus attention à ces choses-là et convertir toute la famille. Merci Jean-Pierre. En attendant demain, tous les matins, sur Europe 1, il est 8h43.
La revue de presse à suivre. Nicolas Canteloup et Julie seront sur Europe 1. Europe 1, 9h moins le quart.
Et ils sont là, tous les deux, Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, l'actualité avec vous, Mathieu Béliard.
Oui, bonjour, ma chère Julie. Bienvenue, chers auditeurs, si vous nous rejoignez sur Europe 1, on va tout vous dire. Ce matin, si vous n'avez pas Internet, vous pouvez le constater autour de moi sur ce studio. J'ai un peu la mèche folle ce matin. La mèche folle, c'est la mode, vous le savez, du gel sur les mains, mais moi, j'ai oublié mon gel sur les cheveux. Bref, on s'en fout un petit peu. Allez,
ouais.
L'info du jour, chère Julie.
Vous êtes jaloux, Nicolas.
Ben, un petit peu, c'est vrai. L'info du jour, c'est Kylian Mbappé qui ne participera pas, nous l'avons appris, aux Jeux Olympiques de Tokyo, puisque le Paris Saint-Germain a dit non. Et ils ont raison, c'est vrai qu'à ton âge, cher Kylian, l'été, on va en colonie de vacances, pas aux Jeux Olympiques. Cela dit, il y a peut-être une chance, Kylian, il te reste encore la possibilité de passer en force grâce au 49-3, voilà, et donc de dire merde à tout le monde. Voilà, faut peut-être y penser. Et puis, l'autre info du jour, ce sont les prix. Des gels hydroalcooliques qui s'envolent jusqu'à 30€. Oui, 30€ pour un petit flacon. C'est beaucoup. Mais comme dirait Laurent Cabrol, le pire, c'est qu'à ce prix-là, ça se boit même pas. Voilà. À vous, Julie.
Merci Mathieu. Arnaud Montebourg l'a annoncé cette semaine sur RTL. Il ne sera pas candidat à la présidentielle de 2022. Non. Arnaud Montebourg, bonjour, comment ça va?
Salut la Leclerc.
Il y avait longtemps, hein?
Salut la compagnie, il y avait longtemps, comme tu dis. Ça me fait plaisir de dire il y avait longtemps. Ça veut dire que quelque part, je vous manque un peu.
Mais oui.
Sèche tes larmes, bébé. Va. Je sais que tu as le cœur brisé, mais voilà, faut se rendre à la réalité. Je ne serai pas président en 2022. J'ai pris ma décision. Je sais que vous auriez tous aimé que je mette mon expérience de dingue dans les affaires et le business au service de la France. Mais bon, je vais tout vous dire, Mathieu. Je vais te dire une chose, je suis trop occupé avec ma mémère qui est en train de couler.
Ah, la mémère, il faut dire que c'est le nom de la glace que vous lancez.
Oui, pardon.
Faut préciser quand même. Hein.
Oui, il n'y a pas que des gens qui lisent des pages saumon. Oui. Et oui, là, on ne va pas se mentir, c'est ma Julie, ça démarre pas fort. Il y a ma mémère qui ne va pas bien. À cause de qui? À cause du coronavirus.
Oui, puis les gens n'ont pas le cœur à manger des glaces en plein hiver.
Mais c'est pas ça. C'est qu'ils ne peuvent pas.
Pourquoi?
À cause du masque. Ben oui, mais vous riez, vous. C'est facile pour vous. Quand t'as un masque sur la tronche, ben tu peux pas lécher ta glace. Hein? Ben oui, ça fait chier. Ça fait yèche, comme disent les petits jeunes. Ah non, je te jure, Julie, quand ça veut pas. Tu sais qu'en plus, j'ai hésité.
Quoi?
Je me suis dit, Arnaud, soit tu te lances dans les glaces, soit tu te lances dans les pâtes. J'ai choisi la glace.
Oui.
Et qu'est-ce que je me rends compte aujourd'hui? Les gens qui stockent des pâtes partout. Le business, la nouille, c'est jamais aussi bien porté. Non, je te dis non. Ça fait chier.
Ah oui,
non, ça veut pas, ça veut pas.
Ah non, vraiment. Allez, bon courage, Armand Bourg. Bon courage. Le coronavirus est surtout dangereux pour les personnes âgées. On va voir comment ça se passe dans les EHPAD. On va appeler une maison de retraite. Tiens, au hasard.
Conseil constitutionnel, bonjour. Alain, à votre écoute. Ne quittez pas, je vous fais patienter en musique.
Les vieux ne bougent plus du lit à la fenêtre, puis du lit au lit.
Pardon, excusez-moi, merci d'avoir patienté. Que puis-je faire pour vous?
Eh bien, écoutez, c'est Europe 1 qui vous appelle. Là, c'est Julie, on pensait appeler. On pensait appeler une maison de retraite, figurez-vous, ils ont dû faire une erreur au standard.
Oui, bonjour Madame Julie, ravi de vous entendre. Écoutez, bonjour, non, c'est normal, non, c'est parce que comme nous avions, pour tout vous dire, des problèmes pour être approvisionnés en stéradin et en viandox, nous avons noué un partenariat transitoire avec l'EHPAD des Mimosades à côté. Écoutez, évidemment, ici nous sommes très attentifs à la situation, nous sommes confinés, comme tout un chacun aujourd'hui. Avec interdiction bien sûr de sortir, c'est évident, mais il y a des distractions.
Ah, quand même, ouais.
Oui, il y a des cours de poterie, des ateliers tricot, ateliers vannerie.
Oui, bon, ben, c'est bon, allez, c'est bon. Mais dites-nous, ça ne va pas fort pour le candidat de La République En Marche à Bordeaux, hein. Thomas Cazeneuve, il est à peine à 11% d'intention de vote.
Oui, Thomas Cazeneuve, hein, ben 11%, oui. Oui, comme quoi, il y a plus...
Cazeneuve
Cazeneuve,
oui, c'est bien ce que je disais.
Oui, pardonnez-moi. Oui, comme quoi, il y a plus contagieux que le coronavirus. Hein. Il y a Mascoumoun. Voilà. Je crois me souvenir que Thomas Cazeneuve, oui, je lui ai récemment serré la main, mais c'était la semaine dernière, hein, et le pauvre Thomas va prendre une énorme branlée électorale. Donc désolé, hein, je dois être, je pense, le patient zéro. Hein, zéro d'ailleurs, comme mes victoires à la présidentielle.
Bon,
écoutez, j'aime bien faire un peu d'autodérision. Bon, écoutez, je vais vous laisser, pardonnez-moi, parce que nous avons un cours de Madison qui va démarrer dans quelques secondes. Oui, j'arrive, Christiane. Ah. Ça démarre, allez.
Ouais.
4, 5, 6. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Bon, Valérie, attention, c'est mon chausson, là.
Elle
va me marcher sur le pied. 5, 6.
Amusez-vous bien, Madison.
C'est drôle.
Allez, on va revenir sur cet article du Figaro. Oh. François Bayrou, une campagne en lévitation. Bonjour, François Bayrou.
Oui, bonjour.
Alors, dans le Figaro, vous énumérez vos succès à Pau. Et ça commence par... intégralité des tags effacés.
Tout à fait, nous avions des tags, car nous avions deux jeunes qui vivaient sur Pau.
Deux jeunes, c'est tout.
Maintenant qu'ils ont quitté la ville, plus de jeunes, donc plus de tags.
Et voilà.
Efficace. Parce que nous sommes rendus compte d'une chose au conseil municipal. Nous en avons parlé.
Oui.
C'est vrai que c'est rare les nonagénaires avec des bombes de peinture fluo qui taguent fuc le système sur la mairie.
C'est vrai.
Et donc,
c'est assez rare. C'est assez rare.
De tag.
Bah oui, voilà. Bah écoutez, c'est efficace. Un mot sur la campagne américaine. Tiens, c'est le socialiste Bernie Sanders qui est favori. Enfin, on dit socialiste nous en France, mais ça correspondrait plutôt à un social-démocrate en fait. On dit socialiste. Non, mais chez
Attends,
nous,
redites un peu là, pardon.
Non, chez nous en France, ça serait social-démocrate. C'est-à-dire que le favori à l'élection américaine, bah, il est social-démocrate comme vous.
Oh putain, mais c'est bien sûr. Pardon, punaise, c'est vrai qu'on est sur une radio. Non, mais ça veut dire que je suis taillé pour les United States. Écoutez, vous savez quoi? Je vais laisser tomber ce bled de Pau. Je pars sur Washington.
Non, mais attendez, vous n'êtes pas né aux États-Unis, vous êtes né où? Enfin,
alors, moi, personnellement, à titre personnel, je suis né dans les Basses-Pyrénées, à Bordère, exactement, 12 habitants, pas un tag. Mais pas grave, vous savez, je déboule aux United States. Vous savez quoi, le plan?
Quoi?
Le bon plan.
Oui.
Je me marie avec Scarlett Johansson.
Carrément, oui.
Voilà, je chope Scarlett et la nationalité en même temps. Et bim, François Bayrou, président des United States.
Wow.
Ben oui, c'est pas plus con que Donald. Surtout que je ressemble un peu à Dumbo.
Oh non, allez. Merci, monsieur Bayrou.
Bon, même monsieur Cabrol, là, celle-ci.
Moi, j'ai pas osé dire que c'était pas faux, mais enfin bon.
Votre mobilier en bière, ça, c'est bien, ah, monsieur Cabrol, chez vous dans le salon.
On va parler tout à l'heure. Allez. Le cambrioleur de Jules Gayet, François Hollande, bientôt expulsé, c'est ce qu'on a pu lire dans la presse. Bonjour, François Hollande.
Oui, bouchou.
Alors, on va rappeler les faits. Le 26 janvier, votre hôtel particulier à Paris a été cambriolé. Quoi ?
Ne dites pas ça comme ça, malheureusement, mon hôtel particulier. Moi qui ai jamais dit que je n'aimais pas les riches. Vous dites de façon simple, vous dites votre trois pièces a été cambriolée. Voilà.
Mais c'est une maison.
Oui, mais il y a trois pièces. Il y en a au moins une en bas, une au milieu et une en haut. En gros.
Donc, selon le magazine Le Point, c'est une belle demeure des années 20, de 180 mètres carrés, avec jardin et terrasse.
Non, avec jardinet. Jardiner, puis une terrasse, terrassinette. Hein. Oui, bon. Petite terrasse, c'est de rien du tout. On ne tient même pas un et demi, deux.
Oui, non, mais je continue. Acquise en juillet 2019 par Julie Gayet pour 2 millions d'euros.
Mais arrêtez. dites le prix pendant que vous y êtes. Je vous rappelle qu'il n'est pas exclu que je revienne en politique comme candidat de gauche, de gauche.
Écoutez, moi,
de
je
gauche,
continue...
vous entendez
non,
le mot
oui,
de gauche.
De gauche, mais moi je continue à lire Le Point. Le couple y emménage après avoir fait 400 000 euros. 400 000 non, euros de travaux.
400 euros de travaux.
Non, 400 000 euros.
Mais c'est 400 euros. Écoutez, attendez, s'il vous plaît. Je me rappelle, j'étais allé à le Roi Merlin acheter la moquette. Et je peux vous dire, j'en ai bavé pour maroufler les murs.
Et donc, le 26 janvier, vous êtes cambriolé.
Vous avez l'image, moi, à genoux, en train de maroufler les murs. Et mon petit tablier.
Même chez le Roi Merlin, en fait. Déjà.
Bon, je continue toujours. Le 26 janvier, vous êtes cambriolé. On arrête le cambrioleur en un temps record, de 3 jours. Alors que souvent, ces affaires sont classées sans suite, je vous ferai remarquer.
Hein. Oui, mais écoutez, on a eu de la chance. Hein, parce que, qu'est-ce que je vous dise, n'essayez pas d'insinuer qu'il y aurait eu une sorte de privilège dû à la fonction. Voilà, on a eu du bol, c'est tout. On a eu du bol.
Et le cambrioleur est un jeune Algérien de 19 ans et comme il est en situation irrégulière, il va être expulsé dans son pays.
Non, mais vous arrêtez avec ça. Il ne va pas être expulsé dans son pays.
Bah quoi ?
Je suis un homme de gauche. Je suis de gauche. Mm. J'ai un cœur, donc je suis de gauche. Mm. Et pas votre appel du cœur. Il va marcher sur mon chausson. Et vous permettez, monsieur le président ? Donc j'ai un cœur. Il va simplement, dans ce jeune Algérien de 19 ans, être muté dans un pays où le temps est d'ailleurs bien plus clément, il fait très beau en Algérie en ce moment, et surtout, c'est pour le protéger du coronavirus.
Oui, bien sûr.
Il n'y a pas de coronavirus en Algérie. Mm-hmm. Vous voulez pas qu'on parle de Macron ? Parce que franchement, le 49-3, franchement, Gaëtan Roussel le disait, quelle honte !
Mais enfin, vous l'avez utilisé 8 fois.
Bah. Bon. Alors... Je vais peut-être y aller, moi. Hein.
Oui, bah, je crois que...
Parce que, non, vous savez pas quoi? Parce que si je reste trop longtemps chez vous, à l'extérieur, comme ça, à Europe 1 ou ailleurs, je peux me faire cambrioler à nouveau.
Écoutez, filez, rentrez chez vous, monsieur Hollande. Allez, on va parler maintenant du sujet délicat du consentement sexuel.
Bonjour, c'est Dominique le délicat.
Bonjour, Dominique Strauss-Kahn. Alors, on a appris hier ce chiffre terrible. 9 femmes sur 10 déclarent avoir eu avec leur partenaire une relation sexuelle non désirée.
C'est un chiffre terrible. Et en même temps, dès qu'on propose une solution alternative, je dirais que c'est pire. Combien de fois ai-je dit à ma femme, si tu n'as pas envie ce soir, je peux comprendre et aller voir une copine. Eh bien, je peux vous dire que niveau consentement, ça passe encore moins.
C'est étonnant, ça.
Merci beaucoup, Nicolas Canteloup. La revue de presse revient demain. Et on salue les auteurs de Nicolas Philippe Cavrivière, Laurent Vassilio, Arnaud Demanche. Vous retrouvez la revue de presse sur Europe1.fr. À demain, Julie.
À demain.
Il est 8h57. La matinée continue sur Europe 1, Culture Média, 9h-11h. C'est avec Philippe Vandel. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour Mathieu. Et aujourd'hui, notre info média saute très haut, sans mauvais jeu de mots. Vous le voyez si vous êtes sur Europe1.fr. C'est le nouvel album de Reporters sans frontières qui vient de sortir. C'est au profit de la liberté de la presse. Et il accueille le mythique photographe Philippe Alsam. On connaît tous ces icônes, Dali ou Marilyn Monroe, qui sautent en l'air, pardon pour le pléonasme. Christophe Deloire, pardon, le président de RSF, sera avec nous. Ensuite, on va parler catch avec nos invités. Christophe Agius et Philippe Chéraud sont les voix du catch en France et sur la chaîne AB1. Pourquoi j'en parle ? Parce que le catch revient en force. Il touche déjà 180 pays dans le monde, 650 millions de foyers. Regarde ça à la télé. Et puis enfin, Mathias Malzieux pour son film Une sirène à Paris, nouvel album de son groupe Dionysos, plus une tournée.
Eh bien écoutez, c'est un sacré programme pour Culture Média, tout ça, ça tient en deux heures.
Mais on va faire
Philippe Bordel.
Je vais parler vite.
Pour la matinée sur Europe 1, avec vous évidemment, Blin, on revient demain matin.
On recommence à partir de 5h avec Julien Pierce.
Je serai là à 6h, d'ici là, le monde aura changé, on va vous le raconter.
C'était Mathieu Bélière sur Europe 1.
Europe 1.